We always thought alien life would come from the stars. But it came from deep beneath the Pacific.
What the hell is going on?
Les poules castes de Doc. Pantatus.net.
Donc, nous allons commencer ce podcast. Donc déjà, je vais faire Fungloui, parce que c'est comme ça que ça commence. Fungloui à tous. Donc Fungloui Dweller, Fungloui Fox, Fungloui Camisole et Fungloui Sergissant.
Stagne.
Merci. Merci à tous d'être... Fox, on n'a pas entendu, mais c'est pas grave. Merci à tous d'être venus participer à ce podcast un peu inédit. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait des podcasts, d'ailleurs. Sobrement intitulé « Marre des masques ». Le but étant, pour être assez clair, on parle trop des masques, on en a trop fait, enfin voilà, il y en a trop quoi, il y a trop des vidéos sur Release TV, il faut même des vidéos chapitre par chapitre, on n'en peut plus. On n'en peut plus, et surtout, chez vous, vous devez avoir forcément d'autres ouvrages, ou même des choses récupérées sur Toc. Vous devez avoir d'autres ouvrages intitulés campagne, et que, à force de vous faire encenser les masques et tout ça, vous vous dites, ah là là, mais j'ose pas faire autre chose. Si je vais demander un renseignement sur une autre campagne, je vais me faire envoyer bouler. C'est pas faux. Et justement, pour éviter ce genre de choses, on va tenter ce soir, et le soir prochain, si on a survécu, de vous faire l'article des meilleures campagnes de l'Appel de Cthulhu. Meilleure campagne, car la plupart du temps, on n'en parle pas. Je pense que vous êtes assez d'accord avec moi, qu'on parle beaucoup des masques, quand même, non?
Oui, un peu. Un peu.
Voilà. Mais si on y réfléchit, et vous le verrez après cette soirée, la prochaine soirée, finalement, il y a plein d'autres campagnes tout aussi mythiques, et vous allez le constater à notre emballement oral à chacun, car le principe va être le suivant, c'est que chacun d'entre nous... Que je répète, Dweller, Fox, Camisole et puis Sergissant, et moi-même votre serviteur, nous allons devoir un tour de rôle défendre une campagne qu'on a jouée, qu'on a préparée, qu'on n'a jamais jouée, qu'on a maîtrisée une fois, deux fois, trois fois, qu'on a joué plusieurs fois parce qu'on est à chaque fois mort. Le fait est qu'on va essayer de la défendre. On aura environ une dizaine de minutes chacun. Le but, donc une dizaine de minutes pour la défendre, et après, les opposants, donc les quatre autres, devront tout bêtement tenter d'opposer à ces 10 minutes d'exposé des fins de recevoir, des contre-arguments, des « ah mais pff, n'importe quoi », enfin en allant un peu au-delà, pour essayer ben, finalement de vous donner envie de tester ces campagnes, de les acheter, et de... Alors il y en a certaines, même on en a sauté, enfin cité qui étaient sur Toc, donc qui peuvent être récupérables, et donc on va essayer de vous motiver là-dessus. Le but de cette séparation, c'est que nous, qui sommes tous là ce soir, forcément, j'espère que vous le savez les gars, mais on va forcément se faire un peu de spoil, hein, parce qu'on va forcément parler des campagnes. Donc s'il y en a parmi vous, que ce soit dans l'émission là, ou alors vous qui êtes derrière votre écran, alors on parle, s'il y a des choses que vous voulez pas écouter, ça sera découpé morceau, par demi-heure, campagne par campagne, pour éviter que vous ayez finalement, on vous file toutes les informations sur toutes les campagnes et que vous puissiez plus les jouer en tant que joueur, ça serait un peu dommage. Donc voilà, messieurs. De l'autre côté, vous êtes ok? Vous avez affûté vos arguments?
Affirmatif.
Si vous êtes au silence, ça va être une boucherie que je vais faire. Donc voilà les campagnes que nous avons sélectionnées. C'est assez simple. Il y en a un paxon. On a Walker in the West, Terreur sur l'Orient Express, les Fungi du Gut, le Rejeton dans Azathoth, les Ombres du Oxototh, les Oripeaux du Roi, les Montagnes Hallucinées, la Chose sur le Seuil, la Trace de Tsatogua, Nightmare Agency, la Pierre Onirique, le Royaume des Ombres, les Œufs de Carlate, l'Affaire Armitage, Utati Asphet, The Golden Dawn, Terror from the Skies, et on a aussi Nocturnum, Coming for the Circle, Aturador, Eternal Lies, The Zalosny Quartet, L'Héritage Greenberg, L'Affaire Jonathan Deluz, Le Livre des Révélations, Le Quatrième Cavalier, L'Autre, Yotrafio, Liqueur d'Algue, Le Réseau Divin, La Maison Reste Ouverte, et potaminé avec du Delta Green en plus du réseau divin. Donc Fox nous met la campagne du livre de base, le volume 12, et Ethor et Benzuna, je sais plus trop quoi là, de Cassius Belli, hein, c'est ça Fox?
Exactement.
Yes, qui se passe dans les années 70. Donc, eh bien c'est simple, je vais en prendre une, où, parce qu'on a bien sûr, pour préparer cette émission, ça fait des semaines qu'on la prépare, hein, on a tous beaucoup travaillé. Le fait est qu'en ayant préparé cette émission, on a donc coché nous-mêmes les campagnes dont on pouvait parler, et je vais donc prendre la parole le premier pour détendre tout le monde. Potentiellement j'aurais pu en parler d'une dizaine, mais je vais me concentrer sur une campagne. Alors je sais pas trop, peut-être vous pouvez essayer de m'en imposer une si vous voulez, dans celle que, où je me suis mis à gauche. Non,
ça m'intéresse.
Terreur sur l'Orient Express, vas-y.
Il y a Terreur sur l'Orient Express ou Walker in the West. Walker in the, ouais, the West. Qu'est-ce qui est... Ah bah il y a Desperate qui vient nous... Desperate. Sors de ta boîte de conserve, Desperate. On t'entend pas du tout. T'es tout petit.
Et dans un cylindre Migo.
Voilà. Dwyer, toi tu voulais que je parle de quoi?
Toi, que tu parles de ouais, Walker in the West, ça m'intéresse bien, ou Terreur sur l'Orient Express que j'ai pas fait jouer.
Fox?
Allez, commence par la première, Walker.
Walker, Desperate, vas-y, parle un peu, voir. On t'entend pas terrible. Donc on va commencer, allez, on va commencer par Walker in the West. Walker in the West, donc attention, si vous voulez la jouer ou quoi que ce soit, vous devez vous déconnecter maintenant. Je mettrai les horaires précis hein, sur le podcast, et puis revenir à la suivante. Donc il est 21h26, c'est parti. Donc Walker in the West, c'est une campagne qui n'a jamais été traduite, qui est éditée, je sais plus trop par qui, mais ça fait un moment maintenant qu'elle a été éditée. Par Pagan. Ah oui, par Pagan, très juste, bien ouais. Donc par Pagan, le principe de Walker in the West, c'est un peu... Je l'ai fait jouer, très honnêtement. Et comme assez souvent, quand je la lis, je me dis, oh là là, un peu comme dans Les Montagnes Hallucinées, voir le trou du cul d'un husky pendant une trentaine de séances, ça va pas être motivant. Et finalement, la préparation, elle est assez géniale, car elle va très très habilement mélanger la découverte de contrées très très inhospitalières, avec une espèce de mélange de The Thing. Ah.
C'est
pas bon. Les 24h du mois viennent de passer. Donc, c'est un espèce de mélange donc de The Thing et puis d'une expédition. Car le principe se base sur un fait réel. Alors, je sais plus si j'ai retrouvé les noms comme ça parce que je l'ai pas relu. C'est le bateau qui devait s'appeler l'Erebus, je crois, de mémoire. Enfin, le fait est que c'est un navire qui était parti pour tracer une route au nord du continent américain, à travers les glaciers, et qui a donc disparu. Disparu là-bas. Je crois que je me trompe pas trop. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu ou pas.
Ça doit être l'Erebus et le Terror, non?
Et le Terror.
De Dan Simmons.
Exactement, c'est ça. Donc c'est on part un peu sur cette piste là. Donc avec plusieurs étapes, notamment une étape pas mal d'étapes de préparation. Alors très honnêtement, c'est la préparation. La préparation, ça pourrait être un truc un peu chiant à la les Montagnes Hallucinées, avec compter le nombre de trucs de sardines, machin, tout ça. Et finalement, c'est assez bien foutu. Moi, j'ai mis ça un peu de côté parce que faire que de l'intendance, franchement, j'ai assez de la journée pour faire ça. C'est assez bien foutu car les chapitres vont mélanger les villages qu'il y a au nord, donc des USA et du continent américain, donc les villages un peu perdus, avec des gens pas forcément bien dégrossis. Donc une espèce d'ambiance un peu pesante, pas à la Twin Peaks, mais vous savez le film là où le mec il enquête, Al Pacino là qui enquête dans un pays. Exactement. Voilà, c'est un peu Je dirais que c'est un peu cette ambiance-là mélangée avec The Girl with the Dragon Tattoo, là, qui se passe aussi dans le Nord. Donc, Millennium, voilà. Donc, une ambiance froide avec des gens un peu bizarres et tout ça. On est sur la piste de ce qui s'est passé pour les Rebus et le Terror. Et donc on... Alors je me rappelle même, punaise, ça fait un moment, là-bas je me suis fait avoir par mon propre jeu. Je sais plus si on monte sur un bateau, mais je crois qu'on monte quand même sur un bateau. Je suis même pas sûr. Parce que je me rappelle qu'il y a pas mal de traîneaux. Et le fait est qu'il y a cette partie-là. Il y a une partie très intéressante aussi où on va être confronté aux autochtones, aux Inuits. Donc avec MP3 de chant, machin, une bonne préparation. Et surtout que le côté un peu chamanique et clanique des Inuits va être très important dans la résolution de la campagne. Mais pour une fois, vous voyez, c'est bien amené. C'est-à-dire qu'on se dit pas, ah putain, voilà des Inuits, bon, ils vont forcément nous aider, il faut écouter ce que veut dire le vieux, tout sec comme un raisin de Corinthe, là. Non, c'est plus intelligemment fait que ça, ça va être des allers-retours. Et vers un final qui finalement est pas énormissime. Ah, petite moto. Donc non, il n'y a pas de moto dans le Grand Nord. Mais donc le final en lui-même va être assez intéressant parce qu'il va pas être grandiloquent comme peuvent l'être certaines campagnes. C'est une campagne dangereuse, très dangereuse, de par les conditions atmosphériques et puis de par ce à quoi vont être confrontés les investigateurs. Mais dans mon souvenir, les joueurs avaient beaucoup apprécié cette espèce d'évolution. Il n'y a pas de sentiment de répétition et de se dire allez encore, comme dirait Jean-Jacques Goldman, encore un matin pour rien quoi. Je veux dire, il n'y a pas encore, on se dit allez encore un matin dans le froid, une journée identique machin, on fait la bouffe, on s'occupe des chiens et tout ça. C'est assez attendez, faut que je la retrouve là. Alors attendez, je continue. C'est bien fait sans être répétitif. Et ça décompte plus, hein, vous me promettez, hein, parce qu'il faut que je la retrouve. Ah voilà, punaise, super. Walker in the West, il est où? Ah punaise. La chose sur le seuil, non, c'est pas ça. Il me reste encore 4 minutes, putain. Je suis mort, je vais me faire défoncer. Merde, c'est fou. Ah voilà, le marcheur des déserts. Parce que moi j'ai une traduction amateur. 198 pages. Oh, punaise. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Vous le voyez pas, mais c'est ça, quoi. Donc, si je résume un peu Ah oui, pardon. Je vous ai dit que le final n'était pas grandiose ou quoi que ce soit, ou trop grandiloquent. Si vous avez un minimum de connaissances de l'appel au Toulouse, le marcheur des déserts dans un pays froid, vous doutez de l'entité autour de laquelle pourrait se dérouler le truc. Et l'intérêt. Exactement. Fraîchement pêché du matin pêché. Et donc le truc, c'est que si on y réfléchit, ça fait partie des entités qui sont les plus difficiles à attraper parce que quand elles se manifestent, c'est pas pouf, allez hop, 300 tonnes de barbac qui vous débarquent et qui vous écrasent comme une merde. C'est beaucoup plus insidieux. Et en plus, on peut la faire arriver sans la faire arriver d'un coup. Elle peut être là par vague. Elle peut... La vague de froid, hein, forcément, je vous cache rien. Mais voilà. Et puis, je me rappelle que ça avait pas mal semé le doute chez mes joueurs en se disant à chaque fois que je leur disais la température baisse, ils me disaient « Oh putain !» Et finalement, ça avait fait monter la sauce de façon notable. Et donc, contrairement à ce que j'en pensais, ça prend, la sauce prend. Il y a cette enquête sur ce qui est passé, ce qui est arrivé à l'expédition. Il y a forcément des cultes locaux, mais je vais pas trop vous en dévoiler non plus. Il y a tout ce qui tourne autour du chamanisme. Il y a quand même la confrontation avec le froid. Et puis voilà à peu près, parce que je vois que ça commence à Toronto. Voilà, c'est l'île du roi Guillaume. Il y a le débriefing. Arrivé à Seattle, baptême de l'air, du marcheur des vents. Ah ouais, il doit y avoir un. Ah ici, il y a un dirigeable. Ah c'est sympa ça. Le marcheur des vents effectue un vol de test. Oui, si, c'est vrai, parce que c'est grâce à ça qu'ils vont. Parce qu'ils ont vu que les bateaux, c'était pas terrible. Donc c'est grâce à ça qu'ils vont essayer de remonter. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. C'est une campagne qui a été très documentée, parce que moi je suis pas le roi de la documentation. Mais en réalité, le mec qui a fait, c'est souvent ça chez les Ricains, c'est-à-dire que le type, je me suis immergé pendant 9 mois dans un frigidaire à manger des Captain Igloo. Enfin, le type s'est vraiment imprégné, s'est vraiment renseigné sur ce qui était arrivé à cette expédition, à la vie dans le Grand Nord, sur les Inuits. Donc si vous voulez vous lâcher là-dessus. Sur le côté descriptif et tout ça, si après les montagnes hallucinées, vous avez encore envie d'avoir froid parce que c'est bientôt l'été. Walker in the West, c'est pour terminer, parce qu'il est 36 bientôt. Pour terminer, Walker in the West, c'est une sorte de gros thing. Alors que quand vous la lisez, vous avez l'impression d'avoir une espèce de par-delà les montagnes hallucinées bis. Donc, c'est une campagne, détrompez-vous. C'est beaucoup de boulot, mais détrompez-vous, elle sera à 99-95% de chance, elle sera géniale. Si vos joueurs accrochent, même s'ils sont pas fans du froid ou quoi que ce soit, s'ils aiment l'aventure et s'ils aiment jouer les découvreurs, ils adoreront. Voilà. C'était la première campagne. Donc je viens de vous essayer de vous vendre Walker in the West. Je sais, c'est l'émotion vous coupe la chic. Donc je vais vous la redonner. À partir de maintenant, donc vous allez pouvoir chacun à votre tour un peu prendre la parole, que ce soit pour me poser des questions, ou si vous connaissez la campagne, ou même si vous la connaissez pas, essayez de me contredire en me disant oui mais pourquoi, et puis ça a pas l'air terrible et tout ça. Elle est trop grosse, elle est trop chère, je sais pas. Donc bien allez-y. Vous
Ok.
avez. Il est 36.
Ok, j'ai
Ah
une
oui.
question.
Bien sûr.
Si je puis me permettre.
Ah
Donc moi, je l'ai, mais je l'ai survolé très rapidement et pas en dirigeable. Juste, j'avais entendu dire qu'en fait, c'est une campagne qui est atypique parce que la manière dont les cultistes sont présentés est moins manichéenne et stéréotypée.
Alors tout à fait. C'est ce qui en fait un peu un des gros intérêts, c'est que quand les joueurs vont les rencontrer, ça va pas du tout être marqué au-dessus de leur tête, vous allez tous mourir ou on est vos sauveurs. Pas du tout. Parce que vous allez devoir cohabiter un peu avec eux, parce que eux, ils vivent dans le froid, eux, ils connaissent certains des dangers, mais ils sont pas non plus tout blancs. Donc il va falloir doser les relations que les joueurs ont avec, je dirais, le culte et les groupes qui sont sur place. Est-ce que j'ai répondu un peu à ta question?
Ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'avais entendu dire carrément que, en fait, c'était des gens. Enfin, on découvrait des cultistes qui pouvaient être des gens avec des motivations qu'on pouvait comprendre et pas le fanatique, la bave aux lèvres, précipitant le monde dans l'apocalypse, quoi.
Alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est un peu comme si... C'est un peu comme si dans les masques de Nyarlathotep, allez reprenons, dans le chapitre
On
qui
avait
va
dit non.
en... Bon, c'est comme dans un peu comme dans Terreur sur l'Orient-Express. Non, je peux pas. Bon, mettons dans les masques, vous avez les méchants qui couillouent, et puis une autre tribu sympa. En réalité, les gens, voilà, exactement, ils n'ont pas juste la motivation. En réalité, quand les joueurs arrivent, ils n'ont pas juste la motivation, soit de vouer un culte bête. Au big boss de la campagne ou à, je dirais, à ces entités, et ils n'ont pas non plus ils sont pas non plus contre, c'est-à-dire que c'est comme ils sont animistes, il y a tout un rapport à la nature qui les empêche d'être soit contre soit complètement pour. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques,
Oui,
d'autres
il n'y a
oui.
pas comme justement, bah, tu faisais le rapport je pense avec les montagnes, ce côté un peu, on fait du voyage et de la séance entière de voyage.
Alors non, là, l'intérêt dans Walker in the West, c'est que moi, et c'est la façon dont il le présente, on joue des destinations plutôt que des voyages. C'est-à-dire qu'on va moins jouer le trajet que arriver sur place à Toronto, machin, arriver sur place à Seattle, machin, arriver sur place près du clan Bidule. Là, on pose le camp. Enfin, après, je dirais que c'est aussi à toi vraiment de savoir ce que tu veux en faire, mais le fait est qu'on joue beaucoup moins. Par exemple, dans les montagnes, on joue la constitution de l'équipe. Là, non. Là, l'équipe, elle est faite. Vous êtes des gens assez reconnus, je crois, dans vos milieux d'expertise. Et donc, il y a une expédition qui est montée. Je sais plus si c'est par un milliardaire ou quelqu'un dans ce style-là. Mais il y a pas mal de recherches en plus derrière en bibliothèque. Mais le fait est que, voilà, c'est... Enfin, moi, dans l'acceptation que j'en avais eue, c'était plus des destinations plutôt que des voyages. Des voyages chiants ou des trucs impossibles à décrire, quoi. Quand tu passes 4 jours derrière un ski, si tu leur dis vous vous arrêtez, ils savent qu'il va se passer quelque chose. Si tu leur dis rien, c'est super chiant. Enfin, voilà. Ça répond ou pas à ta question ?
Oui.
D'accord. Ouais. D'autres questions ?
Oui, moi. Ouais. Pour des gens qui maîtrisent pas la langue de Shakespeare, toutes les aides de jeu, c'est quand même assez problématique, non ?
Ouais, alors, toi qui es là, alors, bon, ce serait quelque chose qu'on se ferait passer sous le manteau pour le moment, mais tant que c'est les aides de jeu, ça ne poserait pas trop de soucis. Mais le document que vous ne pouvez pas voir, mais que j'ai sous les yeux, c'est une personne, je sais plus, je crois qu'il était tout seul, le mec, il a tout traduit. 198 pages. Alors je l'avais filé à Sans Détour, je sais pas s'ils le sortiront un jour. Donc bon, comme je suis réglo, maintenant, enfin presque, je ne le mettrai pas à disposition, mais par contre j'ai 21 pages d'aide de jeu en français. Donc il est tout à fait possible que sur TOC, dès que j'en aurai un peu le temps, je vous mette à dispo les aides de jeu pour The Walker in the West. Ça te va, monsieur Fox ?
Oui, d'ailleurs je dirais même plus, il y en a déjà.
Ah bon ? Salopard.
Quand tu posais les affiches sous les yeux, il y a déjà les aides de jeu en français.
Ah, salopard. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas... Alors, par contre, je sais pas s'ils la traduiront, parce qu'ils ont déjà traduit Les Montagnes Hallucinées, mais franchement, rien que pour le départ et pour le fait qu'on sache pas ce qui se passe à la fin non plus, franchement, Walker in the West, par rapport aux montagnes, on sait pas ce qui va se passer. C'est vraiment les joueurs qui font ce qu'ils veulent. Ils sont guidés et tout, mais il y a une chronologie qui fait que c'est très très ouvert. Donc, bon, je ne sais pas s'ils la traduiront, pour l'instant c'est pas prévu. Mais j'espère, parce que c'est une très très bonne campagne qui avait été pas mal reconnue. D'autres questions, remarques et autres ?
Je sais pas si on m'entend bien.
Vas-y, pas terrible, mais on t'entend, on te comprend quand même, vas-y, des spreads.
Tout à l'heure on vous parlait du niveau d'anglais, des aides de jeu, et qu'est-ce qu'il en est de la campagne ?
Alors, soyons clairs, moi quand je l'ai préparé, je l'avais en anglais. J'avais le bouquin. Donc, en réalité, après j'ai bossé sur la version française, mais c'est tout à fait abordable. C'est un peu comme le... Enfin, je ne sais plus quel auteur avait dit ça, qui est un principe de base, c'est que tout auteur, finalement, dans toute œuvre littéraire, il y a une centaine de mots qui sont vraiment dédiés au vocabulaire de l'ouvrage. Une fois que ces 100 mots, vous les avez notés quelque part, vous les connaissez, finalement c'est très facile à lire. Donc, très honnêtement, moi ça n'a pas été un blocage. Je suis pas bilingue, je lis bien l'anglais, puis avec Google et tout ça. Et puis ce que je dirais, comme je l'ai dit pour Fox, TOC, vous qui l'écoutez, vous qui participez ce soir avec moi, c'est là pour vous aider. Donc moi j'irai checker dans la version française si vraiment il y a des problèmes sur des passages, je pourrais tout à fait partager, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas un anglais bloquant, très honnêtement. D'autres questions ? Remarque ? J'ai bien répondu à ta question ou pas, Steve ?
Oui,
mais non, je sais que toi tu n'auras pas de soucis, Steve.
Une question peut-être ?
Yes, pas de soucis, vas-y.
Quel genre de personnage plutôt ?
Alors pour la jouer, je sais plus s'il propose des pré-tirés. Je vais regarder ça en même temps. Donc ça se passe à fin des années 20. Je regarde un peu en même temps parce que je sais plus. Les dirigeables, les Inuits. Tiens, je vais vous donner les chapitres. Le résumé de la campagne, chronologie. Eh ben, ça je vous dis pas. Rituel du culte, les gens des folklores, les Inuits, l'article, les dirigeables, les combats aériens. Nouveaux sorts et compétences, et après les chapitres, c'est au plus fort de l'hiver, au royaume du marchand des vents, vers Endurance, les secrets des Kouriks. Kouril, pardon. Le projet Camden, la maison Osbrook, l'obscur jumeau de Camden, le vol vers le nord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de fausses pistes et de twists. Le temps des décisions. Ah oui, le temps des décisions, très très bon. Il y aura des vrais choix à faire pour vos joueurs et putain, ça peut changer les choses et franchement, c'est pas des choix faciles. C'est très très bon ça. Et là, chapitre 8. Ah oui, c'est vrai que c'est censé se terminer parce que moi c'était pas. J'ai vu du mal vers la fin, mais la fin, c'est vrai que c'est plus dans le. Ouais, la fin c'est plus dans le froid, l'incident en Irak. Donc, pardon, je regarde, est-ce qu'il parle au début des joueurs ? De toute façon, je crois que ça débute, ils sont à une conférence ou un truc comme ça. Je regarde, hein. Je vous dis ça tout de suite. Putain, les ressources, j'en ai des tonnes au début. J'avais tout lu en plus, putain, d'habitude je lis rien, mais l'article, il y a des tonnes de trucs aussi pour jouer le froid, c'est pas mal, avec la vitesse du vent, comme dirait Gilles Pétré. Voilà, prologue. Alors, l'expédition Franklin, c'est ça, formation. Les investigateurs font partie d'une expérience de longue durée conduite dans les franges nord du Canada. Le plan financé par l'Université de Toronto et le gouvernement canadien consiste pour un groupe sélectionné d'experts et de scientifiques à vivre, ah oui, c'est excellent ça, et travailler dans une base permanente de la péninsule d'Adélaïde, près de l'endroit où se trouvent les restes de certains des membres de l'expédition Franklin. Il y a de nombreuses tâches à accomplir, décrites avec plus de détails dans la section intitulée « On recrute ».
Donc ce seraient des personnages un peu comme dans les montagnes hallucinées, un peu des voilà. Scientifiques ou des guides polaires.
Ouais, plutôt dans cette idée-là, avec des gens qui auront des travaux à faire, d'études du comportement humain, en isolement et tout. Mais franchement, moi clairement, je crois que je m'étais revu deux fois de suite, The Thing avant ce scénar-là. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas.
Bien sûr.
Ouais. Bon ben voilà quoi. C'est pour ceux qui ont vu The Thing, vous imaginez les scènes que vous pouvez faire, mais pas juste sur une nuit, quoi. Avez-vous d'autres questions?
En fait, les investigateurs sont relativement faciles à intégrer.
Oui, très facile. À partir du moment où ils ont un domaine de compétences, et puis ça peut être l'étude des matériaux, des choses comme ça. Hein. Et je sais plus à quel moment c'est, mais on va les amener sur la piste de l'expédition Franklin qui a disparu. Je sais plus si c'est parce qu'ils sont à côté, ils trouvent des morceaux et à ce moment-là ils se mettent à chercher. Enfin, j'avais des joueurs qui sont pas trop à mettre à jeu et tout ça et franchement ils avaient accroché parce qu'ils avaient vraiment eu l'impression d'être maîtres de leur destin et leur choix quoi. D'autres questions?
Il y a moyen d'intégrer un groupe de joueurs qui est assez stéréotypé dans cette campagne-là où on est vraiment obligé de jouer avec les pré-tirés ou une équipe.
Tu veux dire stéréotypé du style le parapsy, le dilettante et tout ça?
Ouais, voilà, ouais.
Je dirais que le journaliste, il rentre, le barapsy, il rentre, le médecin, il rentre, l'universitaire, il rentre. Pour les compétences, moi j'avais des mecs aussi, si tu veux un peu des gros bras, ça rentre aussi, parce qu'il va falloir quand même acharrier du matos et tout ça, donc soit tu te dis, tu mets des PNJ pour l'intendance, soit ça peut être un joueur, tu peux avoir des pilotes, tu peux avoir même des militaires, des choses comme ça, et puis tu peux même un peu cacher des missions que certains, genre ils ont des missions un peu de surface, et puis derrière, leur mission c'est étudier le comportement humain en milieu confiné, dans le froid et tout ça, donc c'est assez ouvert, très honnêtement, pour l'intégration des personnages, même stéréotypés, et ça se fait plutôt bien, enfin tu vois, tu peux même... je dirais que tu peux les orienter soit expérience scientifique, soit expérience humaine, soit matos, soit compétences propres au milieu, quoi. Donc on pourrait dire que même un prêtre, tu vois, il pourrait avoir sa place là-bas, ou... Ah, c'est sûr que balancer un mafiosi de Chicago là-bas, c'est un peu plus dur, à moins qu'il tente d'échapper à quelque chose, mais... Ou alors tu peux même tenir que la personne a comme but secret, elle sait que l'expédition qui a disparu est dans le coin, et il y a peut-être quelque chose à récupérer ou un truc comme ça, mais... Non, je pense que c'est assez ouvert. Ça te va comme réponse?
Ouais, c'est ça, c'est bon.
Moi, j'avais pas eu de problème pour créer les persos. Avez-vous d'autres questions, remarques?
Je sais pas si on en a déjà parlé, mais la durée de vie...
C'est toi, Desprez, qui parle, là?
Ouais.
Ah bah super, ton micro, ouais. Ah putain, c'est top, là. Donc, la durée de vie... Alors, je dirais que c'est une campagne qui est difficile. Mais... On ne se confronte pas à des créatures ou à des gros dangers du mythe par vague, comme ça peut l'être dans les masques de la Totep ou dans le Terre sur Vent Express, parce que là on s'en mange des méchants. Là je dirais les choix, c'est pas des choix on-off, c'est-à-dire que si vous, s'ils ont fait des choix à la con, s'ils veulent faire des tours de garde la nuit dans le froid, bah tu leur fais faire des jets, et puis voilà, ils vont perdre un doigt de pied, des choses comme ça, le mec il va tomber dans les pommes, ou alors des choses comme ça. S'ils vont faire les cons dans le froid sans leur guide, ah oui tiens, quand tu parlais de personnages tout à l'heure, c'est toi qui m'isole.
Ouais.
Ouais, bah les personnages, tu peux avoir aussi des personnages du cru. Tu vois, des guides, où moi je me rappelle que j'avais un sang mêlé, un mec moitié inuit, moitié américain. Ça peut être très sympa, il revient à source et tout ça. Donc, ce que je disais à Desprez, c'est que, en réalité, pour la mortalité, non, elle est pas mortelle. Alors après, c'est toujours un dosage que peuvent faire les gardiens, mais il n'y a pas de gros moments on-off, quoi. Genre, ils sont allés à gauche, il fallait qu'ils aillent à droite, bon, bah, c'est mort.
Vu la campagne, ça sent le Gnofke, non?
Pardon?
Je disais, ça sent un peu le Gnofke, non? Le monstre à six pattes avec une belle corne sur le pif.
Ah, tu le connais? Tu l'as déjà utilisé?
Pardon, ça fait partie du bestiaire de l'appel et j'imagine assez bien que c'est si tu fais une campagne là-bas.
Mais ouais, de toute façon, il a été rajouté, je crois, à cause de Walker in the West. Ah mais ça, enfin, il y a des créatures. En plus, c'est assez sympa parce que, point de vue mortalité. C'est pour ça que j'aurais bien aimé parler de. J'essaie d'en faire parler un de vous s'il l'a pas, si s'il l'a coché, parce qu'il y a le Royaume des Ombres qui fait partie moi de mes meilleures campagnes. voilà. Donc c'est génial. Et le fait est que, et dans Walker in the West, l'intérêt c'est qu'on va être aussi confronté à des monstres, des entités qui sont pas forcément nos ennemis, qui vont pas forcément être contre nous. C'est Je dirais que dans le dosage du danger, il faut bien les classer. Et c'est plus, tu vois, des réflexions comme ça, des sprites qui feront que si des joueurs ils sont complètement cons, ou alors si t'as vraiment merdé et puis s'ils passent à côté de tout, ça marchera pas. Par contre, si t'as bien fait ton affaire, si tes joueurs sont un peu futés, ils arriveront au bout. Après, ça fait mal. Il va y avoir des problèmes. Voilà. Tu vas y avoir des pourcentages qui vont baisser avec les enjures et tout ça. Ou alors s'ils font, si je sais pas, s'ils se mettent de biais avec les Inuits, peut y avoir des problèmes, parce que les Inuits c'est pas des rigolos. Et eux, ils maîtrisent leur environnement. Mais voilà, c'est pas mortel. Moi, j'avais pas limité, comme on peut le faire dans certaines campagnes, en disant je divise le monstre le nombre de monstres par deux, parce que sinon ça marchera pas. Moi, mes joueurs, ils étaient 3 ou 4 et c'était très bien passé.
Une question, Douala.
Bien sûr.
J'en parlerai peut-être pour les montagnes. Dans ce genre de campagne très itinérante et vu le cadre, est-ce qu'il y a une possibilité de remplacer un personnage qui se fait tuer? Parce que c'est pas forcément toujours facile de faire entrer un nouveau personnage.
Ça c'est très bonne question et c'est assez difficile, soyons très honnêtes. Il y a des moments au début et vers la fin où tu pourras récupérer, mais quand vraiment ils sont paumés dans le froid, c'est très délicat. Donc il y a plusieurs choix, comme d'hab, c'est soit d'emmener des PNJ. Alors, ça a plusieurs utilisations, les PNJ, c'est s'ils flippent pas assez, tu commences à tuer les PNJ, ça devient intéressant, hein. Quand t'as tué le mec qui s'occupait des chiens, ça va devenir rigolo. Ou le guide, ça devient aussi marrant. Et donc l'autre intérêt, c'est que si t'as un pool de 4-5 PNJ, c'est un peu plus compliqué, hein, on le sait tous, pour le gardien, mais ça te fait des personnages de remplacement. Parce qu'au début et à la fin, ils peuvent être confrontés à des gens qui peuvent intégrer, mais c'est pas simple. Soyons très honnêtes, c'est pas simple. Après, t'as toujours moyen de rebondir. Tu peux te dire que quand ils vont trouver une des premières tribus inuites, il y a peut-être un mec qui était parti en expédition, qui s'était perdu et qui s'est retrouvé à être recueilli par les Inuits. Et puis dès qu'il voit des Occidentaux se pointer, aussitôt il se précipite pour rejoindre le groupe. Mais il faudra trouver un peu des trucs et astuces. Parce que ça, c'est pas aussi simple que les masques où voilà, on passe par des grandes villes. Ça se fait bien, quoi. Donc non, c'est pas aussi simple.
Après, si tu fais du PNJ d'expédition, moi, ils peuvent commencer à se lier à ces personnages et c'est plus facile pour eux, après, d'en choisir un à interpréter.
Alors tout à fait, l'intérêt c'est qu'ils vont commencer à s'y lier, donc si tu les interprètes bien, ils auront déjà choisi, et puis en plus, s'ils commencent à avoir un peu d'affection, quand tu les tueras, ça sera encore plus sympa, parce qu'ils seront dégoûtés. Ah non, pas John. si, John, Mahmoud. Il reste plus que... Voilà, le fameux Mahmoud dans les masques. Et non, John, il reste plus que un espèce de morceau tout dur, tout congelé. C'est les restes. Donc, en effet, ça demande du boulot. Hein. Honnêtement, ça demande ce qu'on vous a fait pour les masques, c'est-à-dire de faire des petits chevalets pour les poser sur l'écran pour que les mecs soient finalement quelque part toujours présents pendant la campagne, quoi, sur votre écran. Une dernière question avant que mon temps soit définitivement imparti.
Ouais, il y a une question de chronologie à respecter ou de temps à la montre ou un truc comme ça ou pas?
Alors, de ce que je me souviens, dans le froid, et là je suis en train de regarder la chronologie, elle définit le début, donc c'est assez libre. Quand je regarde la chronologie, ils disent... Dans mon souvenir, c'était assez libre, la chronologie. Ah oui, non, il va falloir faire quelque chose. Terminé quand c'était... j'ai tenu un camp d'expédition. Ah non, pardon. Non. Non, alors ça c'est peut-être le côté qui pourrait être un peu casse-burne. Bon, en même temps ça peut être décalable. Parce que c'est pas une éclipse hein, comme dans d'autres scénars. Mais il y a un final à une date précise. Mais arrêtez, ce que tu me fais pointer la camisole, c'est que finalement dans Return in the West, je pensais plus apprécier le reste de la campagne que le froid, et finalement, bah c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus apprécié les parties dans le froid. La partie au début, j'ai bien aimé, alors que la partie vers la fin de l'Irak et tout ça, je m'en souviens plus trop, c'était plus tip-top moumou, je me demande si j'avais pas sabré des trucs. Parce qu'on s'était vraiment bien pris notre pied avec les Inuits, avec le froid, avec le côté très très The Thing, donc voilà. Ça vous va ou une petite dernière question, mais super ouais. Ninja. Yes.
Je voulais juste encore te demander bon, tout à l'heure,
bien sûr.
Je t'ai posé les questions de la durée de vie.
Ouais.
Je voulais plutôt parler du temps
du jeu. Tu
sais. Je t'aurais aussi posé la question de la mortalité. Je peux y répondre, mais
c'est quand même une campagne longue parce qu'il y a pas mal. Elle est longue parce qu'elle est intéressante et qu'il y a des découvertes et des choix à faire par les joueurs. Comme ils vont pas être très très guidés comme pour l'être Terreur sur Internet Express, c'est long. C'est vraiment une campagne longue. Moi, à l'époque où je l'ai joué, on jouait tous les lundis, 4 heures. Donc tu vois, ça allait assez vite. Parce qu'en plus, d'un lundi sur l'autre, tu te rappelles ce que t'as fait. Donc c'était assez rapide. Mais c'est une campagne longue, ouais. C'est je dirais une partie toutes les deux semaines ou une partie par mois, ouais, c'est au minimum une année quand même.
Ok.
C'est quand même une vraie campagne et qui ne peut pas être morcelable. Autant vous voyez les masques, on peut se dire ah, ils arrivent dans un pays, tiens, je vais faire un petit scénar annexe et hop, on continue après. Là non, quoi. Les scénars annexes au pays des Inuits, c'est pas terrible. Donc voilà, alors j'espère que... on va faire comme dans l'école des fans. Attention, et puis moi, faut être honnête, hein. Moi je suis toujours honnête et je suis toujours direct. De 1 à 5, des sprites, tu mets combien à ma campagne?
Là tu m'as donné bien envie.
C'est vrai?
Ouais, vraiment, je lui mets 3,5-4, mais avant de la lire.
D'accord, Dweller, tu mets combien de 1 à 5?
Moi je reviens de l'Antarctique, donc forcément j'ai envie de repartir. Donc moi je lui mets 4 parce que je sais que c'est du pagan et que ça me fait envie aussi.
Camisole?
Ah, moi c'est pareil, ça me donne bien envie. Après moi j'ai moins d'expérience que vous, j'ai l'impression par rapport à tout ça, mais là ça donne envie comme ça. Le côté un peu libre, pas trop. Tout ce que tu as décrit, quoi, ça donne vraiment envie, je mettrais pareil 4 quoi.
Ouais, cool, Fox.
Ouais, moi 3,5, 4 aussi. Pagan, c'est souvent des campagnes un peu difficiles des fois à appréhender. On peut toujours avoir un peu peur lorsqu'on les lit. Mais souvent, elles ont vraiment une vraie saveur en jeu. Et je pense que ce que tu as dit doit être vraiment réel en termes de plaisir de jeu.
Oh, ouais, très honnêtement. Et s'agissant?
Moi, je mettrais 3 parce que, comme des sprites, je sors un peu du grand froid du sud. Mais en fait, pour le coup, j'ai peur que ça fasse un peu le redit pour moi. Après, ça, c'est juste mon avis, mais je pense qu'effectivement, une campagne est sans...
Ah, mais t'as tout à fait raison, parce que c'est quand même une campagne très très typée, quoi. C'est une campagne très typée froid et tout ça, donc... Ok, bon, donc... Pardon ?
Tu lui donnais combien avant ?
Moi, avant de la lire, je lui donnais 1,5. Je me suis dit, ouais... Et après l'avoir lu, je pense qu'en éradiquant ce qui m'a fait chier vers la fin et tout ça, je lui mettrais Par rapport aux autres, ouais, je lui mettrais un 3,5 facile, ouais. Un bon 3,5. Okay. Ouais, parce que c'est vraiment une bonne campagne que j'ai eu plaisir à jouer, quoi. Où je me suis pas embêté. Donc, dans les campagnes suivantes, est-ce qu'il y a quelqu'un, pas une campagne, mais quelqu'un qui veut parler?
Ouais, je veux bien, ouais, c'est bon. Ouais,
attends. C'est Fox. Ouais. Bon, Fox, il va bientôt être 20, oui, il est 22h01. Attends, avant de nous dire quelque chose, on va regarder, sinon on n'a pas un truc à te dire. Fox, donc il pourrait nous parler de Terreur sur Antexpress, des Fungi Diogot, tu serais pas dans la merde, hein. Nightmare Agency, le Royaume des Ombres, putain, ouais, ça c'est bon ça.
Moi j'ai bien envie de vous parler de Nightmare, c'était la première que j'ai joué d'ailleurs.
Mm. Ah, puis en plus on va te défoncer parce que c'est hyper dirigiste. Bon, tout le monde est d'accord pour Nightmare?
C'est parti.
Ouais.
Allez, Fox, il est 22h01, bientôt 22h02, tu as 10 minutes environ, hein, tu t'arrêtes quand tu veux, pour nous faire un peu le pitch et nous donner envie. C'est parti.
Alors, c'est parti. Alors, déjà presque pour parler de Nightmare, il faudrait quasiment avoir une petite musique de jazz en fond sonore, parce que je pense que c'est un des éléments d'ambiance indispensables. Voilà. Alors, j'ai ressorti mon exemplaire, donc à la couverture, un petit jauni maintenant, assez détrempe. Et comme je vous l'ai dit, ça a été la première campagne que j'ai réellement maîtrisée. Et ça a été un souvenir magnifique. Alors, pour plusieurs raisons, je vais essayer de vous développer. La première chose, c'est que à l'époque où je l'ai joué, effectivement 12 scénarios, ce qui est déjà pas mal lorsqu'on est jeune et qu'on investit dans un supplément, avec une difficulté qui montait de manière assez crescendo, je pense assez adapté à des joueurs débutants, peut-être un peu moins pour le MJ, on en parlera sûrement tout à l'heure lorsqu'on fera la petite confrontation. Une grande variété de thèmes, on parlait bien sûr de la prohibition, les vampires, les monstres cthuliens par pure essence, donc avec une grande variété. Souvent, des fois je trouve d'ailleurs avec soit un petit côté pulp ou horrifique pur en fonction des scénarios, donc c'était très très agréable. Le tout dans une ambiance vraiment jazzy, et avec quelque chose qui est tout en filigrane de la campagne, qui d'ailleurs pour lesquels certains peuvent totalement passer à côté, c'est la création réelle d'une agence de détectives privés. Commençant par zéro, vraiment le rêve d'un des joueurs, des prétirés qui constituent cette campagne, jusqu'à sa montée en apothéose avec toutes les petites étapes, qui rajoutent vraiment un côté ambiance énorme. Alors, c'est une campagne, lorsque sur TOC, Vonve avait en particulier travaillé sur la sortie de Nightmare 2 avec Olivier, l'un des auteurs, c'est vraiment une campagne qu'a vécu, hein. C'est-à-dire que elle est le produit de joueurs et d'un gardien qui ont joué, qui ont vraiment aimé leur perso, et qui ont retranscrit au fur et à mesure de cette campagne ce qu'ils ont vécu. Et cet amour de cette campagne telle qu'ils l'ont vécu, on le retrouve réellement dans toutes les petites nouvelles, hein, qui sont réparties dans l'ouvrage, qui sont intitulées I Had a Dream, qui retracent un peu l'histoire, qui sont ces interludes entre les différentes entre les différents scénarios, et qui, pour à mon avis un gardien expérimenté, constituent par elles-mêmes des idées de scénarios à développer au-delà des 12 scénarios qui sont créés. Alors, chose indispensable, il y a 4 PNJ qui sont présentés au départ, franchement haut en couleur. Pas jouer avec les prétirés, je pense que c'est une erreur. Alors, tout simplement parce que, en particulier pour l'un d'entre eux, Chuck, le destin qui va être le sien est à exploiter totalement.
Juste un truc, Fox, quand ouais. Tu parles de PNJ, c'est les prétirés, c'est ça?
Ouais, pardon, ouais, les prétirés,
d'accord.
Tout à fait.
Hein. Okay.
C'est 4 prétirés, dont Chuck, dont le destin va être à exploiter totalement. Ça va être terrible, honnêtement, pour celui qui l'aura choisi. Mais ça peut créer clairement le scellement, l'identité de cette agence au fur et à mesure de l'évolution de la campagne. Donc ça, quelque chose vraiment d'extraordinaire. Alors, j'ai parlé de la difficulté. Il est vrai qu'un gardien débutant se contentera de faire tous les scénarios de manière assez linéaire, dirigiste, d'ailleurs sans peut-être y trouver l'essence, mais je pense que quelqu'un d'un groupe débutant se fera déjà plaisir avec ça. Mais je pense qu'avec un gardien expérimenté, et même des joueurs expérimentés, la création de la campagne qui est vraiment filigrane de l'intégralité de la création de cette agence de détective qui est vraiment en filigrane sur l'intégralité de cette campagne et le gros morceau. Et ce qui sera d'ailleurs très difficile pour quelqu'un d'estimer la durée de jeu. Quelqu'un qui fera les 12 scénarios, c'est des scénarios qui peuvent à peu près durer une séance à chaque fois de 8 heures, ça peut aller globalement assez vite. Mais si on commence à rentrer dans le détail de faire vivre cette agence et tous les petits éléments connexes qui vont créer le Cotton Club, etc., etc., il y a quelque chose d'énorme, et qui pourra durer très très longtemps avec la sortie sur TOC de la deuxième épisode, même si hélas, le troisième n'est jamais sorti. Alors quoi dire d'autre, des aides de jeu plus. Alors il faut admettre que les illustrations sont parfois moyennes, même souvent, mais elles ont un vrai charme. Et d'ailleurs ceux qui peuvent aller sur TOC retrouveront aussi d'autres illustrations originales qui nous avaient été données par les auteurs à l'époque. Elles ont été dessinées par un gars de l'équipe, c'est-à-dire un gars de l'équipe qui a fait jouer cette campagne. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les dessins qui sont tout au long de ce supplément, malgré leur qualité souvent moyenne, elles retranscrivent réellement ce qu'ont vécu toute cette équipe. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment un point fort, c'est-à-dire que contrairement à des fois des campagnes qu'on sent très peu testées, avec des gros fils, etc., etc., là, lorsqu'on lit cette campagne, lorsqu'on joue cette campagne, on a vraiment l'impression de repartir sur les traces d'un groupe de joueurs des années 80 qui a vécu des vrais plaisirs et une vraie aventure autour de cette création de cette agence, la Nightmare Agency. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur l'ensemble de cette campagne.
Il te reste 3 minutes si tu veux encore.
3 minutes. Alors là encore, on va faire de la pub pour TOC. Hein. Bon. TOC, du fait de la sortie de Nightmare Agency 2 sur TOC à l'époque, présente franchement pas mal à la fois des aides de jeu, des conseils sur la mise en place avec des inspi, en particulier il y a tout le travail à faire sur la dialectique, tout l'argot qu'il va falloir utiliser, ça y joue vachement sur toutes ces histoires de jazzman, de musique, toute l'inspiration à la fois cinématographique, l'inspiration en lecture qui sera nécessaire pour vraiment donner ce côté années 20. Et moi, le souvenir que j'en ai de cette campagne, je trouve que c'est quasiment celle pour laquelle le cachet historique m'est le plus resté. Autant certaines pouvaient être des fois fragmentaires, mais le fait de vivre cette agence de détective très orientée en plus à certains moments avec la mafia, toute la prohibition, on est vraiment dans l'époque. Et de manière assez simple, sans s'en rendre compte d'ailleurs, hein, et donc sans faire des efforts outre mesure pour pouvoir se mettre dans cette ambiance. Et cette Nightmare Agency, si vous rajoutez la bande son qui va bien, etc., sera totalement dans l'ambiance des années 20. Tel qu'on peut le rechercher. Voilà, donc vous trouverez bien sûr aussi le Nightmare Agency 2 hein, sur TOC, qui avait été mis en page par Vonv à l'époque lorsque tout avait été redonné par Olivier, donc un superbe supplément. Là, quand on commence à attaquer Nightmare Agency 2, là on en a pour un sacré temps hein, de jeu, avec la frustration de ne pas avoir eu le 3, qui selon les dires de l'auteur faisait vraiment monter en apothéose l'ambiance telle qu'on pouvait la sentir au fur et à mesure de Nightmare 1 et 2. Pour moi, c'est une campagne qui a été injustement critiquée.
T'inquiète pas, on arrive.
Voilà. et d'ailleurs, je vous laisserai justement montrer vos objections là-dessus pour pouvoir la défendre au mieux possible.
Bon, bah super. Voilà qui est bon. Eh bien, messieurs, moi y compris, on peut aller pour questions, donc je vais commencer. Une petite question. Ça se passe en France ?
Non, ça se passe aux États-Unis.
D'accord.
Voilà. Hein, donc c'est pour ça que, voilà, tu vas vraiment vivre la période de la prohibition, en particulier autour du Cotton Club.
Moi, j'aime pas le côté chiant historique. On va pas me saouler avec de l'historique. Ou alors, ce que je veux dire, c'est qu'on va pas trop me décrire tout. On va me la faire jouer à l'époque, c'est ça ?
Voilà, alors tu vas la vivre, mais tu vas pas la subir. Juste simplement parce que les codes qui ont été utilisés dans Nightmare sont des. Je veux dire, c'est la culture commune autour de ces années 20. C'est-à-dire, par exemple, rencontrer Al Capone, ce qui sera le cas dans certains scénarios. Je veux dire, c'est la connaissance et c'est les images telles que chacun d'entre nous, en particulier lorsqu'on a découvert l'appel, on se représentait en fait cette époque. Et donc, un peu effectivement, les incorruptibles, etc., etc. Tu te retrouves plus dans cet imaginaire fantasmé des années 20 plutôt que dans des années 20 totalement historiques. Et ce qui fait que l'appréhension que tu peux en avoir et l'intégration de toute cette histoire est globalement assez simple. Il faut d'ailleurs pas oublier que Nightmare était conçu dans les années 80 où je pense l'accès à l'information autour de cette époque n'était pas aussi riche que la nôtre. Hein. Donc on est plus sur du cliché facilement accessible et utilisable.
D'accord. Les autres ?
Après ce que tu me dis, c'est un petit scénario. Est-ce qu'il y a quand même un fil conducteur, ou est-ce qu'on peut les faire dans le ordre, ou est-ce que c'est juste du recueil de scénario?
Non, il faut vraiment tous les scénarios en fait constituent la création de cette. Donc tu as des enquêtes, et au fur et à mesure de ces enquêtes, tu vas voir naître. Avec les contacts qui vont se créer, les PNJ qui vont apparaître. Alors là, vous avez des PNJ haut en couleur à aborder et qui seront des contacts qui seront utiles sur les scénarios qui suivent, etc., etc. Il y a une vraie cohérence entre les scénarios qui est très très fine. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être expérimenté pour l'utiliser, parce que on peut facilement passer à côté. Mais tous les scénarios que tu vas faire, tu les fais dans un ordre chronologique, hein, avec une vraie montée en puissance. Et en particulier, je l'ai dit, pour certains pré-tirés. L'histoire va leur faire très mal. Donc,
donc mais la question derrière celle de Sergisson, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est on va être obligé de les jouer dans un certain ordre.
Ouais,
donc est-ce que ben voilà la critique qu'on a le plus souvent fait à Camisole, je sais pas pourquoi. La critique qu'on a plus souvent fait à Nightmare Agency, c'est le dirigisme. C'est-à-dire qu'on rejoue une campagne qui a été jouée. Pour toi, est-ce que ça demande quand même du travail pour la rendre, ouverte, ou alors la pratiquer comme elle est décrite dans le bouquin suffit?
Alors non, elle va demander un peu de travail. Pourquoi? Tout dépend en fait de la manière dont vous allez l'aborder. La première chose, c'est que nous sommes dans la création d'une agence. Donc le dirigiste tel qu'on le rencontre, il est évident, puisque les détectives, hein, puisqu'ils sont tous détectives privés à terme, vont travailler à la commande. C'est-à-dire qu'une grande partie des histoires qu'ils vont vivre seront liées à des commanditaires. Donc ça, c'est ce qu'on va peut-être appeler la partie encadrée, dirigée et scénarisée, imposée par la campagne. Mais tout ce qui est autour, c'est là que la liberté est vraiment grande. C'est-à-dire que lors de la présentation des PNJ, les motivations de chacun sont clairement décrites, en particulier pour Chuck, qui est vraiment le pivot central de la campagne, donc un Black qui cherche effectivement à créer cette agence. Et c'est autour de tout ça, alors et c'est vrai que dans la campagne, lorsqu'on la lit, c'est pas ce qui est écrit, donc c'est ça qui demandera peut-être un peu plus de travail, mais qui va aussi plutôt répondre aux demandes des joueurs au fur et à mesure. Là, c'est totalement libre. On est vraiment dans une période, du moins sur une partie plutôt bac à sable, où au regard des exigences que chacun d'entre eux vont pouvoir avoir pour développer leur personnage, développer l'histoire de cette agence, le gardien va devoir être hyper actif pour pouvoir vraiment donner ce sel. Et je dirais que ce sera vraiment important. Ouais, vas-y.
Ouais, parce que, et puis pour aller dans ton sens, les gens qui critiquent finalement la linéarité, il faut voir que c'est un principe de base du scénar. C'est-à-dire qu'on est une agence et on attend qu'il y ait des cas qui nous soient donnés.
Exactement.
Donc finalement, ce que tu mets en exergue, ce qui est très intéressant, c'est de se dire les cas, on va les avoir. Donc on les aura forcément dans l'ordre dans lequel le gardien va les donner. C'est pas les joueurs qui vont les choisir. Donc par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'ils découvrent ce qu'il y a derrière chacun de ces cas et qui fait évoluer leur personnage et le groupe, je pense.
Exactement. Toute la storyline et toute l'histoire en fait, de cette agence va se développer grâce à ces enquêtes. Mais toute la richesse sur la construction, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur la création de cette agence, sur le rachat à un moment d'un club de musique, parce que l'aspect jazz, c'est un truc à construire, mais c'est énorme. Hein. Donc, avec les recrutements éventuels d'autres personnes, de contacts, non, il y a vraiment une liberté complémentaire. Et là, qui est franchement lié à la fois à la synergie qu'il y aura dans le groupe de joueurs, et ça c'est indispensable, il faut qu'il y ait une vraie complicité à un moment pour pouvoir le monter de manière réelle, vivant, et c'est ça qui a fait la force, je pense, de Nightmare lorsqu'ils vont jouer, et puis une réactivité du gardien qui doit être capable, au-delà de, effectivement des commanditaires, qui va pouvoir gérer sur les enquêtes, où ça sera globalement assez simple, mais pas toujours, il devra être hyper actif pour pouvoir répondre à la commande.
J'ai une question.
Les demandes de ses joueurs. Oui.
Une question de Weller, le destin du personnage de Chuck, donc si j'ai bien compris, est-ce que c'est pas trop lourd, enfin j'entends, est-ce que ça devient pas trop sensible à un moment, est-ce que les autres personnages ne vont pas sentir un peu trop que l'arc tourne autour de un seul d'entre eux, quoi?
Non, alors effectivement Chuck est central dans la création de l'agence, mais il y a plusieurs enquêtes en particulier qui mettront aussi en exergue d'autres, qui vont en particulier, que ce soit Jason, Madison, etc., qui vont devoir, sur certaines enquêtes, être mis en avant, et qui vont d'ailleurs développer leur propre histoire. Par exemple, l'un d'entre eux va se découvrir une vraie sensibilité vis-à-vis de tout ce qui est chamanisme indien, par exemple.
Attention, Dweller, on entend un peu des trucs derrière. Merci.
Et donc il y aura même, si mes souvenirs sont bons, il y a un petit scénario solo pour lui qui peut être joué pour pouvoir lui le faire travailler un petit peu plus.
Par contre, j'irai dans le même sens que Dweller sur le côté Chuck. Est-ce que tu es obligé finalement de donner les personnages à tes joueurs? Est-ce qu'ils peuvent les choisir, ou est-ce que finalement, sachant un peu le futur de ces personnages, tu les donnes à tes joueurs connaissant tes joueurs?
Moi, j'aurais tendance à effectivement faire ton casting. Moi, je vois Nightmare, c'est vraiment un film des années 20. C'est-à-dire que il va falloir que tu trouves parmi tout ton groupe ceux qui seront les plus adaptés pour jouer les individus. C'est tellement précis le background qui est prévu. Par exemple, il faut à tout prix que, à mon avis, ton joueur qui est le plus moteur souvent dans tes campagnes, etc., t'en as toujours un. Il faut que ce soit lui qui soit plutôt que Chuck, hein, parce qu'il sera vraiment important. Au contraire, si tu confies ce rôle-là à celui qui est toujours au fond de la table, à noter et à rien dire, ça risque de poser des soucis. Donc, ouais, le gardien a vraiment tout un travail à faire pour préparer ça. Et je pense que ceux qui la critiquent vont vraiment passer à côté de ces parties peut-être un peu plus complexes. Hein. C'était moins accessible peut-être.
Question subsidiaire, ouais. Est-ce que, comme à la manière d'un COPS, à la limite on peut faire le parallèle sur le thème, est-ce qu'à la manière d'un COPS, c'est une campagne qui accepterait l'idée d'un joueur qui occasionnellement n'est pas là? Est-ce que les scénarios ont la nécessité d'avoir tous les personnages, ou est-ce que justement tu peux t'accommoder d'avoir une équipe à géométrie variable en fonction des présences de joueurs?
Ouais, plus alors il y a vraiment des joueurs incontournables, ça c'est sûr, mais c'est pas très gênant si certains sont pas toujours là. Et tu auras en plus une galerie de PNJ qui seront ta réserve en plus, que tu vas utiliser, que tu vas rencontrer au fur et à mesure, ce qui fait que la mortalité sera pas si grave que ça sur le fond. Donc ouais, tu peux avoir si t'as un joueur qui est pas très fiable par exemple, tu peux lui coller rapidement un PNJ qui sera peut-être pas très important pour la storyline en background de la campagne, mais qui lui permettra de se faire plaisir au fur et à mesure sur plutôt la partie enquête ponctuelle, commanditaire, etc., etc.
Ok.
Pardon,
excuse-moi. Et à contrario, moi j'ai un format de jeu un peu particulier avec une partie de mes joueurs. On se voit deux fois dans l'année sur des week-ends de 4 jours où on enchaîne 4 jours de jeu de rôle. Donc ça veut dire 4 jours intenses.
Et
mon groupe est de 6 joueurs. Donc est-ce que par exemple tu imagines que ça pourrait être une campagne qui conviendrait, moi, voilà.
Avec des grosses séances, quoi, ouais. Très
grosses
juste.
Grosses séances et 6 joueurs, surtout.
Ouais, 6 joueurs, le format initial est effectivement avec 4 joueurs, tu as 4 joueurs qui sont clairement ceux, le corps de Nightmare. Bon, après t'en mets 6, c'est pas ce qui est le plus gênant. Moi je pense que si tu joues en petite période comme ça, tu risques justement là de pas passer à côté de Nightmare, c'est-à-dire que ça sera tellement intense qu'à mon avis les interactions que tu vas réussir à créer sur ton week-end, elles risquent d'être vraiment très fortes.
Par contre, t'auras pas un effet trop poussé, c'est-à-dire qu'on te pousse des cas les uns après les autres, ça, tu penses que ça peut tenir sur ce genre de format? C'est-à-dire que t'as pas autant l'intérêt, si tu joues sur des petites séances, c'est que entre deux affaires, finalement, il y a un interlude, mais c'est un interlude de joueur comme investigateur, quoi. Le fait de le jouer comme ça à la suite, c'est pas un peu risqué? De faire affaire sur affaire, quoi, peut-être?
C'est possible.
Je pense que c'est compliqué d'enchaîner réellement les affaires. La séquence sur un jour séparé, on a effectivement un temps et dire bah voilà effectivement, à plus de une semaine sans rien.
Ouais.
Sur une autre semaine. C'est vrai que sur 4 jours, il te fait passer ça, quoi.
D'autres questions?
Non, merci.
Faut pas hésiter, hein. Des sprites, dwellers.
Non, pour moi c'est cool.
Pardon, vas-y, des sprites, bah, après je repasse à Sergisson après. Dwellers, des sprites, tu disais?
Je disais, c'est une campagne que j'avais déjà lue et commencé à préparer. J'avais aussi pas mal apprécié. Pas de questions pour moi.
Dec, Sergisson?
En fait, je voulais savoir si c'était une campagne qui était aussi mortelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir un joueur par certes, quoi.
Écoute, moi, j'ai joué deux fois. La mortalité a été très très faible. Mais je pense que c'est lié aussi à ma manière de jouer. Donc, après, il y a certains scénarios qui peuvent faire très très mal si tu lâches trop la bride.
Alors, peut-être une question par rapport à cette histoire, puisque Chuck est un personnage central, est-ce que tu penses qu'il y a un risque que le joueur le sente et qu'à partir de là, justement, ça lui permette de sentir que maintenant il va pas se faire buter par le connard au bistrot qui est en train de lui chercher une histoire?
Ouais, mais c'est ça qui est terrible en fait, c'est que effectivement, c'est un vrai moteur, Chuck. Sauf que ce qui va lui arriver, alors sans spoiler, c'est-à-dire qu'à la fin d'un des scénarios, bon, si on va même le dire d'ailleurs, Chuck va se retrouver paralysé. Voilà, clairement, un accident dramatique sur les enquêtes. Et ce qui fait que, et c'est ça qui va être terrible, c'est que le joueur va devoir s'en séparer. C'est-à-dire que c'est le gardien qui va prendre la main sur Chuck, qui va le garder pour faire vivre cette campagne. Mais ça montre que même si la mortalité est pas obligatoirement énorme, on peut perdre voilà beaucoup plus, hein, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a commencé à monter, qu'on apprécie et qu'on croyait un peu voilà investi parce qu'il était personnage central. Il le restera d'ailleurs.
D'accord.
Pas du tout dans le même registre et même contexte.
Donc par contre, vas-y.
Non, je t'en prie, vas-y.
Parce que donc ça prend le contre-pied de ce qu'on pourrait croire être une campagne de la Paléo Toulouse, c'est-à-dire que je dirais c'est un peu comme dans le film américain, le chien et le black ils s'en sortent toujours. Enfin non, le black se sacrifie à la fin, mais le blanc et le chinois et le chien s'en sortent à chaque fois. Et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que justement il reste quand même du Cthulien dans la campagne?
Oui, t'as des morceaux de poulpe à l'intérieur. Hein.
Et alors, comme c'est par petit scénar, est-ce que c'est... je pense que c'est... Tu vas me répondre non, mais est-ce que c'est genre une montée crescendo face à un ennemi récurrent, ou finalement, comme l'évolution de la campagne est basée sur l'évolution de cette agence, finalement, ce sont des événements sporadiques, cthuliens, mais peut-être grandissants en dangerosité, mais c'est juste des événements séparés les uns des autres.
Dans le Nightmare 1, oui.
D'accord.
Mais en fait, les adversaires sont plutôt... Alors, d'ailleurs, c'est pas des adversaires obligatoirement dangereux. Par exemple, tout au long de ces campagnes, ils ont un concurrent, entre guillemets, plutôt d'ailleurs pas très bon, qui est un membre des forces de l'ordre, qui voit en Nightmare les empêcheurs de tourner en rond. Souvent, ils sont plus efficaces que lui, d'ailleurs. Et donc, voilà, les interactions avec des Némésis, elles sont pas obligatoirement mortelles, mais et c'est ça aussi qui rajoute un charme peut-être un peu différent, c'est-à-dire que on a par exemple cet inspecteur qui revient tout le temps et qui les fait chier, et c'est ça voilà, c'est des choses qui prennent peut-être un peu contre-pied par rapport à ce qu'on a l'habitude dans plein de campagnes, mais qui aussi, je trouve, rajoutent un truc un peu sympa, c'est-à-dire qu'on est sur quand même des enquêtes toujours surnaturelles, et ça rajoute un petit côté un peu plus quotidien à l'histoire que moi j'avais vraiment apprécié.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc on va lever notre petite plaquette. Alors moi je dirais, je lui aurais mis 4, mais je lui mettrais 3 parce que c'est quand même une campagne qui est assez demandeuse en termes de autour. C'est-à-dire qu'il faut avoir les bons joueurs, il faut avoir les bonnes périodes de temps, et il faut des joueurs qui soient capables de faire du méta-jeu, de pas se laisser en disant « Ah, trop facile » et tout ça. Donc je lui mets 4 parce que monter une agence, c'est génial, mais je lui mets 3 en réalité parce que c'est compliqué à mettre en place. Des sprites, tu lui mets combien? Par contre, tu l'as vachement bien défendu, hein, Fox.
Moi je lui mettrais 3, comme toi, parce que je trouve qu'elle a une ambiance vraiment géniale, qu'on retrouve difficilement dans d'autres campagnes, ne serait-ce qu'à cause de la posture. Le fait de jouer des détectives et un groupe de détectives, ça apporte vraiment quelque chose, une sorte de souffle, un peu pulp, quelque chose de vraiment sympa. Par contre, ce que j'aime pas trop dans cette campagne, c'est l'impression de mettre les chaussettes mouillées de quelqu'un derrière lui, à savoir marcher dans les personnages qui ont existé. Et si tu veux, ça fait bizarre. C'est l'impression qu'on va toujours, on va faire quelque chose que d'autres ont mieux fait que nous avant. Et c'est une campagne, enfin c'est une sensation que j'ai déjà pu avoir avec d'autres campagnes. Je sais pas si vous connaissez par exemple Dragonlance. Où on propose d'interpréter les personnages du premier groupe de joueurs. L'idée est sympa, mais quand elle oriente trop le déroulement de la campagne, j'ai vraiment l'impression de marcher dans les traces de quelqu'un et de toute façon jamais pouvoir arriver au niveau de jeu auquel ils ont été. Voilà, donc 3.
Ok, Camisole.
Ouais, moi je sais pas, je suis un peu mi-figue mi-raisin, c'est vrai que tu donnes envie, hein, mais tu vois, je donnerais 2,5 parce que je sais pas trop. Hein, le côté, comme tu dis, desperate, de voir rejouer des personnages qui ont déjà été joués avant, c'est peut-être le côté qui freine un peu, quoi.
Dek, Sergissant.
Moi je serais 3 parce que, bon, effectivement, l'idée de monter une agence, c'est pas très fun. Par contre, j'aime pas trop. J'aime bien laisser mes joueurs choisir leur perso. Moi, je pense qu'il va y avoir un gros. Si je dis un perso, ben voilà. Les joueurs, voilà, vous créez vos propres persos et puis on fera juste.
On a pas entendu la fin de ta phrase, Sergi.
Je disais, j'ai un peu de mal avec l'idée de.
De forcer, ouais.
De vos persos, puis en fait, derrière. Ouais, je vous impose ça parce qu'il y a besoin. Ça fait des cordes un peu trop gros.
D'accord. Dweller, de ton côté ?
Moi, de mon côté, je dirais entre 2,5 et 3. La linéarité ou l'idée de jouer des personnages prétirés, ça me gêne pas du tout parce que c'est parfois dans ce genre de pot qu'on fait les meilleures soupes, mais parce que justement, ça donne tout de suite des directives et des dynamiques. Moi, je serais assez curieux. Je vais mettre 2,5, 3. J'ai envie de la lire parce que vous m'avez donné envie pour voir si ça conviendrait à mon format de joueur. Voilà.
Bien joué, Fox. Bien joué, Fox. Ah, tu l'as bien défendu parce que c'était pas gagné. Qu'est-ce qu'il veut parler après, Fox ?
Moi, je veux bien.
Si, donc, Dweller. Qu'est-ce qu'on pourrait lui foutre sur la gueule
moi,
à Dweller ?
Moi, j'étais parti pour parler des montagnes. J'en sors.
Ouais, tu dois partir de bonne heure aussi, toi, Dweller ?
Ouais, je travaille demain, comme tout un chacun.
Moi, je te verrais. Ça te dirait pas de parler des fungi de Yogot ?
Alors, je pourrais te dire que les fungi, je pourrais t'en parler, mais je les fais jouer il y a 20 ans, donc en fait, je jouais pas de la même façon. Les montagnes, j'en sors, et en plus, c'est un mal-aimé, c'est pour un peu que je voulais en parler.
Bon, allez, vas-y, allez. Okay. On est d'accord, on dit à Dweller que c'est les montagnes ?
On peut voter ?
Allez, moi, je vote pour parce que je l'ai commencé, et je l'ai pas fini, donc allez. On est d'accord ou pas ? Ouais ?
Ouais, parce que je suis en train de le refaire, donc...
Donc, Dweller, à partir de maintenant, tu vas avoir 10 minutes pour nous faire accepter l'idée que lire 400 pages sur le trou du cul des Inuits et des chiens de traîneau est intéressant. C'est parti.
Ok, c'est parti. Alors, c'est... pour
je dis, vas-y. On peut voter pour la note.
On peut voter pour la note.
Ok. Bon, bah, ok, c'est parti pour 10 minutes, mettez vos polaires. Donc moi j'en sors, je vais en parler parce que c'est un objet un peu étrange en fait. Je l'ai longtemps eu dans ma bibliothèque, comme probablement la plupart d'entre vous. Ça fait à peu près 7 ou 8 ans facilement qu'elle est assise dans sa VO. La sortie de la VF m'a donné envie d'y rejeter un œil. Alors bon, le pitch, je vais pas vous le faire, enfin vite fait. Hein. Donc c'est une expédition antarctique qui va s'embarquer. C'est celle qui est mentionnée à la fin de la nouvelle de Lovecraft. Il en parle, l'expédition Starkweather-Moore qui va aller en Antarctique pour... Bah, les Bifides, il y a deux chefs d'expédition. L'un va y aller pour savoir ce qui est arrivé à l'ancienne expédition, celle de 1931. Et le deuxième chef d'expédition est un explorateur. Lui, il a essentiellement envie d'aller par-delà les montagnes qui ont été découvertes. Donc à partir de là, les joueurs vont interpréter des scientifiques, des guides polaires, bref, tout genre de personnages qui a une raison d'être dans une telle entreprise puisqu'ils vont être recrutés. À partir de là, bien, ils vont partir. Donc effectivement, c'est une campagne un peu particulière parce qu'elle fait effectivement 750 pages si on considère qu'il y a les aides de jeu et compagnie. Elle est très documentée.
T'inquiète, elle sera battue par terre sur Orient Express la prochaine fois.
Ouais, alors après, elle est très particulière. Moi, je l'ai faite jouer et elle a implosé en plein vol très récemment, mais je vais y venir. Donc, c'est voilà. Donc, c'est un objet particulier parce qu'elle a un rythme très particulier. On a d'abord, d'une part, elle a une grande linéarité. Forcément, vous êtes embauché, vous n'êtes pas le chef de l'expédition. Conclusion, c'est pas vous qui décidez des grandes orientations, de là où vous allez aller, de par où va passer le bateau et où est-ce que vous allez atterrir et monter le camp. Ça, ça pourrait être vu comme un défaut. C'est une des choses qui m'a fait longtemps douter. La première partie, effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure avec Walker in the Waste, il y a un côté intendance. Mais je dirais que la première partie, c'est Tintin. Voilà, si on veut schématiser, la première partie, c'est ambiance Tintin, préparation avec des
mystérieuses
sabotages et traîtres cachés. Donc, c'est une partie qui peut être très sympathique. À l'avoir fait jouer, elle est très sympathique au final. Faut pas trop forcer sur le côté regarde 4 pages de description de boîte de conserve, mais ça doit quand même être voilà parce que ça va permettre de mettre en exergue les défauts de certains PNJ. Ensuite, vous avez le voyage en bateau. Il est intéressant aussi si les joueurs sont actifs. Parce que là aussi, il va y avoir le même genre de côté, le même genre de côté Tintin. La partie où on s'installe sur la glace, ça va être la vraie découverte. Et puis, effectivement, les choses vont commencer à rentrer. On va rentrer dans le débat quand les personnages vont accéder au camp de Lake, celui qui est décrit dans la nouvelle de Lovecraft. Où là, on rentre dans un côté enquête avec petit à petit révélation du surnaturel. Tout le monde connaît, je pense, la nouvelle.
Oui.
Voilà, donc on va bien se douter de ce qu'on va trouver. Alors, les mérites pour moi de cette campagne, en fait, de ce monstre.
Allô ?
Moi, il y a une forme d'unité d'endroit pour tous ces joueurs. On a moins le risque d'un éclatement de groupe qui part l'un à gauche, l'autre à droite. Et puis, un vivier de personnages de remplacement, puisque toute cette expédition qui est autour des personnages joueurs et dont ils font partie fournit évidemment tout un vivier de personnages en cas de mort, ce qui peut arriver. Les mérites, c'est que c'est un énorme théâtre, donc c'est un gros boulot pour le maître de jeu. C'est une campagne qui repose énormément sur les interactions que les joueurs vont avoir entre eux et avec les PNJ. Je pense que ce qui est très très important pour atteindre le sommet que ça peut être, on va dire, c'est de faire créer des personnages aux joueurs qui aient des vrais backgrounds. C'est-à-dire demander à chacun, bon voilà, ton personnage, pourquoi part-il ? Qu'est-ce qu'il veut trouver ? Qu'est-ce qu'il fuit ? Parce qu'on peut aussi partir dans un endroit pareil pour fuir quelque chose. Qu'est-ce qui peut te pousser à aller dans l'endroit le plus hostile de la planète, risquer ta vie ? Donc c'est très très important parce que ce sont des éléments qui vont ensuite permettre, eh bien, à des moments clés, on va dire, de permettre aux joueurs de savoir comment jouer son personnage. Voilà. Ce qui est pour moi le monument de cette campagne, c'est qu'en fait c'est la plus Lovecraftienne de toutes celles que j'ai lues en vérité. Bien plus que Imaginaire Totem, bien plus que toutes celles que j'ai lues, parce que j'en ai lu pas mal même si je ne les ai pas faites jouer. Parce qu'on joue des gens normaux, ça c'est pas pulp, je vais pas y aller avec mon fusil de chasse, même si je serais peut-être armé à un moment de la campagne. Ça raconte vraiment la rencontre en fait entre des humains et l'inhumain en fait. Vous allez rencontrer les restes d'une civilisation disparue, vous allez comprendre combien tout ce que vous savez de l'histoire, de la place de l'homme dans le cosmos est faux. C'est vraiment la confrontation avec l'inconnu au sens Lovecraftien du terme, et je pense que c'est très très puissant. Si c'est bien fait, évidemment. Et puis surtout, c'est une campagne qui est vraiment de jeu de rôle au sens ROLE et pas RO2L, parce que véritablement, à un moment de la campagne, là où ma campagne a explosé justement, c'est qu'il y a un choix très grave. Peut-être que si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. On peut spoiler un peu ou pas ?
Oui.
Et bien en fait, à un moment ou à un autre, c'est-à-dire que les personnages vont être amenés à comprendre que finalement, ils sont des virus. Et que ils ont déclenché quelque chose qu'il faut absolument enrayer. Et pour enrayer cette chose, pour empêcher la destruction de toute chose, en fait, eh bien, il faut se sacrifier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se sacrifier si on est un héros. On peut sacrifier quelqu'un si on est un salaud. On peut laisser se sacrifier quelqu'un si on est un lâche. Mais d'une manière ou d'une autre, on n'en reviendra pas intact parce que on portera avec soi le poids de ça. Et cette campagne, elle parle de ça. Et à partir du moment où cette chose-là s'enclenche, il va y avoir toute une série de choix moraux très très forts, parce que moi je sais ce qui s'est passé, j'ai compris que personne ne doit aller par-delà les montagnes, et donc je vais devoir empêcher d'autres personnes d'y aller, ça veut dire que peut-être les gens qui m'ont accompagné aussi, il faut qu'ils y restent, peut-être qu'ils ne devront pas revenir, il y a des gens que je vais peut-être devoir faire taire, je vais peut-être devoir leur faire comprendre qu'ils doivent se taire, ou peut-être que je vais devoir les faire taire parce que je sais que j'arriverai pas à les convaincre, et donc c'est une campagne qui parle de choix moraux, quoi. Elle parle vraiment de ça. outre la confrontation à l'inconnu, et je pense que c'est ça sa puissance, c'est qu'en termes de jeu de rôle, on peut atteindre vraiment des sommets. C'est-à-dire qu'il y a la place dans cette campagne pour le joueur qui veut jouer un lâche, parce qu'il va être grand lui aussi, ça va être une partie d'histoire. Un lâche, c'est royal dans une histoire comme ça. L'homme qui coupe la corde quand vous êtes accroché à sa taille parce qu'il n'a pas envie d'y rester, c'est des grands moments. Celui qui va se sacrifier si c'est un héros, c'est un grand moment. Je pense qu'il y a vraiment de très très grands moments. Moi, j'ai eu de très grands moments dans cette campagne, même si au moment du choix ultime, les joueurs ne l'ont pas vraiment assumé. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont... C'est ce que j'appelle le syndrome de l'épée plus 5. C'est-à-dire penser que quelque part, il y a l'objet, la chose, le deus ex machina qui va vous permettre de triompher de l'adversité sans payer le prix le plus fort, c'est-à-dire de vous sacrifier. Et ensuite, après cet énorme climax moral et émotionnel, vous redescendez en apparence et la fin de la campagne est un gros clin d'œil à The Thing dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il y a tout un épisode qui, quand on croit que c'est terminé, ça l'est pas encore. Et là, on est en plein dans du The Thing et dans Alien, parce que le retour en bateau va être une chasse aux monstres assez effrayante. Et je pense que c'est une campagne qui est vraiment très grande et je sais pas combien de temps il me reste, tu veux me le dire?
3 minutes environ.
Oh, ça va. Je pense qu'elle est très grande parce qu'elle a des résonances, pour employer le terme que l'auteur emploie à la fin, des résonances très fortes. Il y a notamment, pour ceux qui vont la faire jouer, un excellent article dans Unspeakable Oath, le magazine, c'est dans The Black Seal, un magazine anglais qui avait été fait très orienté Delta Green. Il y a un excellent article sur, justement, une conspiration en Antarctique et vous comprenez que c'est la suite, 50 ans ou même 70 ans après, des montagnes hallucinées, la campagne. C'est-à-dire que, ce secret est très bien gardé, et parce qu'il faut que les choses restent en l'état, il y a une espèce de statu quo qui s'est établi entre le gouvernement américain et les choses très anciennes qui sont en Antarctique. Donc je pense qu'en plus on peut s'amuser à la faire jouer, puis tranquillement passer à autre chose, vous faites jouer du Delta Green, puis un jour vos personnages commencent à comprendre qu'ils sont en train de marcher sur les pas de leurs anciens personnages des années 30. Je pense que ça peut être très grand. Donc c'est une très très grande campagne, elle est très difficile parce que pour le maître de jeu, il va devoir animer une galerie de 30 à 40 PNJ, les faire vivre, leur donner une personnalité pour qu'effectivement, comme disait Vonf tout à l'heure, quand John meurt, on fasse « Oh non, pas John !» Parce que John a existé à vos côtés. Et peut-être que John d'ailleurs sera un PJ de remplacement pour quelqu'un d'ailleurs. Donc ça c'est très important. Et puis faire vivre le froid, la glace, donc il y a cette idée d'un grand voyage. Alors après, moi, je l'ai fait jouer sur des gros week-ends, et je pense que c'est une campagne qui gagnerait, à mon avis, à être jouée dans la régularité, pour que les joueurs sentent le temps. Et la première partie est très lente, mais je pense qu'elle c'est volontaire. Elle a l'air très lente, mais c'est le contrepoint, parce que dès que vous passez les montagnes, alors là, après, c'est non-stop, ça ne s'arrête plus, et les joueurs sont débordés, et c'est assez horrible. Donc, c'est une très très grande campagne. J'encourage quiconque la lit ou la prépare à aller lire le blog de... sur yopsotot.com de Christian Lehmann, qui préface d'ailleurs la version française, parce que avec ses joueurs écrivains, dont Maxime Chatham, ils nous ont fait une tablée, vous lisez ça, vous pleurez, vous prenez vos livres, vous les brûlez, vous faites ses poupous, parce que jamais ça sera comme ça à votre table. Mais c'est une grande inspiration.
Ok, bah, putain, pas mal. Bien joué, de l'air. Bon, va falloir y aller de contrer, t'inquiète.
Fire.
Par contre, Philippe, tout à l'heure, de temps en temps, on a l'impression que t'es en train d'emballer des paquets de Noël parce qu'il y a un bruit de papier. Tu disais, s'agissant?
Oui, j'avais une question.
J'entends pas très bien, c'est assez haché quand tu parles.
En combien de temps tu l'as fait jouer?
Alors oui, la durée. Moi, j'ai fait jouer, pour ceux qui connaissent la campagne, donc ma campagne s'est manifestement arrêtée après l'exploration de la cité des anciens et l'arrivée à la Tour Noire, l'endroit où le drame se noue. J'ai fait jouer ça sur 4 grands week-ends, sachant que nous jouons 4 jours, on va dire 4 week-ends de 30 heures de jeu environ. Il y en a eu 3 week-ends. Plein de 30 heures environ, je te dirais, entre 20 et 30. Et puis, le dernier week-end, malheureusement, on a implosé en milieu de notre week-end. Donc, je te dirais que pour en arriver à ce stade de jeu, on a environ joué, moi, je dirais, 80 à 90 heures.
D'accord. Bon, tu nous as décrit, là, tu as essayé de nous pipoter, nous mettre en bateau et tout ça. Mettez vos anoraks, pouf, pouf, pouf. Ouais, d'accord. Mais si je résume, tu te fais chier à faire un voyage dans le froid. Arrivé là-bas, tu te fais chier à gérer un peu l'intendance. Ensuite, t'as une espèce de gros donjon avec des créatures qui se baladent un peu partout. Est-ce que j'ai tort ou pas?
Alors, ta question est très très bonne. Et oui, tu as tort. pour la faire courte, non, non, pas du tout. Le côté intendance, il faut le saupoudrer au début. Il est là pour, en fait, essentiellement montrer que la logistique de l'expédition est merdique. Ça permet de mettre en avant des défauts d'un des PNJ, à savoir le chef d'expédition James Starkweather. Et je vais en parler, d'ailleurs, c'est important peut-être de dire deux mots sur lui. Par contre, dès que vous arrivez sur la glace, non, faites pas de l'intendance. Assez rapidement, on peut être descriptif et faire vite sur « on monte le camp », décrivez un petit peu la vie de tous les jours. Faut pas non plus s'apesantir, parce que très vite, les joueurs, on va dire, forcément, étant des joueurs, c'est ceux qui mettent le nez là où il faut pas. Très vite, le deuxième chef de l'expédition, le professeur Moore, comprend qu'il a les gens qui vont aller mener l'enquête pour lui. Et donc, tout de suite, dès qu'on est sur le camp de Lake, là, on est dans de l'enquête. On va découvrir, on va exhumer les restes, comprendre ce qui s'est passé, mettre les pièces les unes au bout des autres. Et puis, dès que vous allez dans la cité, ben non, c'est pas un donjon. Alors, justement, par rapport au donjon, il y a eu ces discussions sur le forum. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais, ce n'est que mon avis, bien sûr. La version française vous ajoute 200 pages effectivement, de donjons dans la cité. Moi, personnellement, j'ai élagué tout ça. Je pense qu'à mon avis, mais ce n'est que le mien, qu'il vaut mieux rester sur la version américaine, qui est plus concentrée. C'est-à-dire qu'en fait, je pense à des épisodes, si vous l'avez lu, ou dans la version française, disons que c'est plutôt la version allemande.
Excuse-moi, Douleur. Après, en fait, on t'a pas entendu.
Ouais, pardon. Je disais, en fait, le côté donjon de la cité, c'est la version allemande, en fait. C'est les Allemands qui ont rajouté toute cette partie-là, celle qui a été traduite par les Français. Et là, vous avez un problème, c'est que vous allez avoir beaucoup d'expositions des choses très anciennes. C'est-à-dire, notamment, il y a un passage que je trouve abominablement linéaire et narratif, où vous êtes embarqué dans le corps d'un hominien, d'un hominidé à l'époque de la cité. Donc, vous êtes un passager d'un personnage dont le maître de jeu vous décrit les pérégrinations. Je trouve pas ça très intéressant. Et surtout, ça expose trop les créatures. C'est-à-dire qu'à force de les voir, à force de contempler leur mode de vie, ben, vous rendez une chose inconnue avec un grand I à la Lovecraft en un truc dont on peut comprendre les motivations. Et ça, c'est une erreur.
D'accord.
Il faut pas.
Et tu voulais parler de Starkweather. Attends, je sais pas.
Qui... est en train de mourir.
Oui, je crois qu'on est en train de le perdre. Juste, je pense que s'agissant remonte des limbes, tu voulais parler de Starkweather, Dweller.
Alors, Starkweather, c'est vraiment un personnage très important. Si vous avez lu la campagne, vous savez qu'à un moment, lui aussi, il a un destin à la Chuck. Il va se faire enlever par les choses très anciennes et il va être sacrifié dans l'espèce de construct biologique, la machine qui fait tenir la bombe à retardement. Qui est la grande menace qui plane sur cette campagne. Starkweather, c'est un personnage complexe parce que c'est à la fois, il peut paraître comme un bouffon vantard, c'est ce qu'il est. C'est à la fois un homme qui a de la trempe, il faut qu'il soit à la fois charismatique et en même temps, il a des défauts. C'est un vantard, il veut tirer la couverture à lui. Au niveau logistique, il est un petit peu bidon. Ce qu'on découvre dans la première partie. Mais il faut faire très attention. Parce que c'est un homme, je pense que s'il est joué, si on force trop le trait, les joueurs vont le détester. C'est le syndrome du Gandalf. C'est-à-dire qu'on est avec un PNJ. Donc, par définition, déjà, il nous gonfle. Parce que c'est le chef. Parce que, voilà. Alors, il faut faire très, très attention. Il faut y aller avec du doigté. Pour que vos joueurs, quand même, à un moment, aiment cet homme. Il faut qu'ils aient, voilà, c'est votre chef. Il y a quelque chose, à un moment, où vous devez avoir de l'empathie pour lui. Il doit y avoir une connexion pour que son sacrifice, pour que sa mort, en fait, soit tragique.
D'accord. Et alors, il y a un truc que je rajouterais avant de laisser la parole aux autres. Est-ce que, parce que je suis salaud, mais pas quand même. J'avais adoré le début quand tu dois jouer les embauches. Ça, j'avais, mais adoré personnellement. C'est-à-dire que vous allez jouer l'embauche des gens pour l'expédition. Donc, j'avais fait un scénar à chacun de mes joueurs, séparés, où ils arrivaient avec un dossier, un petit dossier, et on se mettait chacun à un bout de la table, et je jouais Starkweather et Moore, et ils devaient me convaincre de les embaucher en expédition. Et alors, je sais pas si toi, Dweller, tu t'es amusé à ça, mais putain, moi, ça avait été un excellent moment, quoi. Je m'étais vraiment bien, bien marré.
Personnellement, non, mais...
Tu l'as pas joué?
Non, je voulais un petit peu aller un petit peu dans le vif du sujet. Ça pourrait être intéressant. Je dirais que si je poussais l'idée, je dirais à chaque joueur de me proposer, mais ça demande des efforts. Vous me faites deux ou trois persos, et en gros, vous allez caster. Le joueur, il va vous caster.
Ah, pas con, ça. Ouais.
Mais faut avoir le temps.
Et c'est le maître qui choisit. D'autres questions, s'agissant... On entend pas trop trop bien. Vas-y.
Je disais que j'étais pas tout à fait d'accord avec les douleurs qui rajoutent la version allemande. En fait, je pense de les faire jouer justement pour casser le côté linéaire de la campagne. Parce qu'on va pas se cacher, hein, mais la campagne est super linéaire. Il y a que justement ce moment dans la cité où les joueurs sont entièrement libres. Et sans aller jusqu'à effectivement ce voyage dans le temps parfois pas évident, mais il y a quand même pas mal de pistes justement pour faire comprendre un petit peu, commencer à faire comprendre aux joueurs qu'il y a réellement de l'horreur derrière tout ça.
D'accord. Toi, quand tu l'as fait jouer, enfin la partie alors, donge n'était pas un donjon, c'est ça?
En fait, ils sont pas arrivés jusque là. J'ai une grosse mort. Ils ont voulu passer sous les montagnes, chose qui est très sympa à faire, mais qui est juste un peu suicidaire, quoi.
Donc, d'accord.
En fait, j'ai eu mort à ce moment-là.
Des sprites, Fox, des questions?
Ouais, moi j'en ai plusieurs. La première, moi pareil, j'avais la VO, et j'avais abandonné très rapidement dans la préparation. Et alors, ce qui m'étonne, c'est que tu dis, toi par exemple, t'es arrivé assez loin avec à peine 80 heures de jeu. T'as volontairement raccourci certaines parties ou tu as vraiment respecté la timeline telle qu'elle était prévue?
Non, j'ai respecté. 80, c'est pas rien, je pense. Non, pas du tout. J'ai pas raccourci. Mes joueurs ont, à New York, ils ont exploré les différentes pistes. Ils ont pas du tout été Trailblazer, quoi. Ils ont vraiment été, ils ont exploré la piste de HKC à Lexington, le livre de Arthur Gordon Pym. Enfin, tout ça a été, non, toutes les pistes ont été explorées. Le bateau, pareil, ils se sont tout de suite intéressés à la piste du saboteur. Donc, il y a eu toute la phase d'enquête, etc., pour arriver à le démasquer. Non, en fait, on n'a rien sauté. Je pense que 80 ans, c'est beaucoup. Mais non, vraiment pas. Et on est arrivé jusque là. J'ai juste élagué ce que Sergissant, lui, bon, ce dont il parlait, c'est-à-dire le côté donjon. Alors, je précise quand même que mes joueurs sont aventurés dans la cité, qu'on a joué une partie d'exploration où ils se sont enfoncés. Ils ont rencontré même un Shogod dans les profondeurs. En fait, ils ont marché sur les traces du manuscrit de Dyer. Et paradoxalement, mais un de mes joueurs était intéressé par les mythes de la Terre Creuse. C'était un Allemand. Et donc du coup, il a voulu y aller, ils y sont allés, ils ont rencontré le Shogod qui savait très bien être là, un personnage est mort, mais ça a été un moment authentiquement terrifiant. Par contre, je rejoins Sergissant en disant, attention, il faut quand même laisser les joueurs explorer un peu la cité, parce que les fresques sont très importantes, il faut arriver à... Je pense que l'esprit de cette campagne, c'est l'esprit de la nouvelle Lovecraft, c'est l'esprit peut-être de la seule chose de bonne à garder de Prometheus, le film, parce que ça parle de ça. C'est je vais à la rencontre de mon créateur, parce que c'est ça qui est la révélation. Et
parle pas de Prometheus, t'as tout caché là.
Prometheus est un mauvais film, mais il est adapté d'un chef-d'œuvre, c'est Les Montagnes Hallucinées, parce que c'est ça l'histoire.
Tout à fait.
Et j'encourage tout maître de jeu à cajoler tout personnage qui serait très religieux, parce que je pense qu'on peut avoir des grandes interactions là aussi. Un personnage très religieux va en prendre plein la figure, parce que c'est la négation même de toute croyance en Dieu, en la genèse par Dieu. Vous êtes juste un échappé de cuve, un espèce de protozoaire qui a évolué pour devenir un être humain, et vous êtes un échappé de laboratoire. C'est ça que ça raconte, en fait. Donc je pense que ça, c'est assez grand. Il faut laisser le joueur explorer la cité, mais le côté, le zoo des profondeurs avec des bestioles dans chaque galère, enfin, moi, j'adhère pas du tout, parce que ça donne des motivations vaguement déchiffrables, voire des choses très anciennes, danser en jouant de la flûte dans leur vie quotidienne. Je suis pas tellement pour, en fait.
Fox, il y a pas mal de questions.
Ouais, une autre. Moi, l'impression qu'elle m'a donnée, et c'est marrant parce que vous êtes trois à l'avoir... jouer, hein, donc toi Vonve, toi Dwiller et toi Sergissant, c'est un gros pavé, et malgré tout, en fait on va jamais jusqu'au bout, hein. C'est l'impression toujours que ça me donne, c'est-à-dire que elle est tellement énorme, c'est un investissement énorme, et très peu arrive à voir à la fin, parce que les choix qu'on va avoir à faire à un moment ou à un autre, alors soit par essoufflement, soit parce que, comme toi, sur un climax, les choix qui font que ça fait exploser la campagne en vol, donc j'ai presque l'impression des fois qu'on est... En particulier avec le syndrome sans détour, on a rajouté des pages et des pages.
On est condamné à ne pas la finir, quoi.
Et on est condamné à ne pas la finir.
Je pense que c'est frustrant.
De l'heure
Je laisse Sergissant.
Vas-y, tu dis que c'était frustrant, Sergissant.
C'est vrai que c'est frustrant parce que là, bon, j'ai proposé à notre groupe. C'est vrai qu'on est parti pour presque 2 ans de jeu, quoi. Donc, ah oui, parce que... On prévoit une fois tous les 15 jours, et j'ai 2 joueurs pour continuer la partie. Tant pis pour les autres, mais voilà, faut vraiment avoir des joueurs et un gardien très motivé aussi.
Bah, je l'étais, la préparation est monstrueuse. Pour moi, c'est un blockbuster, je l'ai préparé comme ça. C'est un énorme pavé, quoi, c'est un monument. Mais non, je pense qu'en fait, mon analyse de ce qui m'est arrivé à moi, en tout cas, c'est que notre format de jeu, le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs, 6, c'est beaucoup. Et je pense que ça a nuit. En plus, à un moment, si vous voulez, que comme mes joueurs, pour le passage de la tournoi, 3 PJ étaient dans la tour. Et les autres personnages, pour diverses raisons, étaient soit morts, soit j'ai un personnage qui a voulu en abattre un autre, qui a été mis aux arrêts. Donc bref, il n'y avait que 3 PJ dans la tour. Mais j'avais 3 autres joueurs sur la touche. Donc j'ai pris un gros risque. Je leur ai donné les 3 PNJ qui sont avec eux, c'est-à-dire Acacia Lexington, le docteur Meyer, le docteur allemand, ainsi que le photographe Albert Priestley, en leur expliquant les motivations des personnages, etc. Ce sont de bons joueurs, donc c'est pas où a été le problème. Mais en donnant ces PNJ, vous perdez des leviers. Et je pense que c'était au moment où j'ai senti que ça aurait pu déraper, si j'avais eu mes PNJ, entre guillemets, dans ma poche à moi, j'aurais pu tranquillement et tout doucement activer les petits leviers pour pas que ça arrive. Donc cette chute à moi, elle est juste due à mon format de jeu, et on est passé à 2 doigts, si vous voulez. Et c'est bien dommage, mais non, je pense pas que ce soit c'est pas une campagne condamnée à ne jamais finir, bien au contraire. Et vraiment, si vous lisez, je ne sais pas si moi je vous ai donné envie, mais si vous lisez le blog de Lehmann, vous aurez probablement envie, parce que personnellement aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait jouer, je joue depuis 1985, enfin je masterise en fait, hein, j'ai quasiment jamais joué, c'est ce que j'ai fait jouer de plus grandiose, je pense. Même si je l'ai raté, je sais que je suis passé juste à côté, et il y a eu de très très grands moments dans la campagne, mais pour moi c'est le truc le plus fort que j'ai fait jouer, et je retournerai en Antarctique parce que il faut que je la refasse jouer fort de cette expérience, parce que c'est un monument. Voilà.
I'll be back. Des sprites, est-ce qu'il y a une question avant qu'on finisse?
Non, pas vraiment, plein de commentaires, mais je sais pas si...
Vas-y, on t'entend plus très bien, des sprites, vas-y.
Tu m'entends mieux là?
Ouais, yes.
Je disais, j'ai pas vraiment de questions parce que j'ai lu la campagne, mais j'ai beaucoup de commentaires, ouais. Je sais pas si c'est le moment d'en parler.
Bah si, tu peux, vas-y. Ouais.
En introduction, je voulais déjà dire que j'ai lu toute la campagne, j'ai adoré la lire, j'ai lu les nouvelles, de Gordon Pym à celle de Lovecraft. Au final, quand j'ai terminé tout ça, j'étais ravi d'avoir lu, mais je me suis dit, ce truc-là, c'est pas une campagne de jeu de rôle. Ce que j'y vois, moi, c'est... Alors, je vais être sévère, hein, mais c'est un gars qui a écrit une œuvre lovecraftienne fantastique, très dense, très 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 riche, très documentée, mais qui suffit à elle-même en tant que bouquin. Et je pense que la manière dont il propose de la faire jouer est extrêmement malhabile. Moi, j'y vois une sorte de labyrinthe à rats. J'ai l'impression que les joueurs jouent des PNJ. J'ai l'impression qu'ils jouent des PNJ qui ne jouent pas des joueurs, qui jouent pas des PJ. Ils ne se contentent que de réagir à des événements qui se produisent, comme dans un train fantôme. Ils discutent entre eux, ils interagissent, certes. Ils émettent des hypothèses, ils réfléchissent, mais après l'embarquement, après l'appareillage et le début du voyage, tout est extrêmement, extrêmement linéaire. Alors, la gestion du temps est catastrophique, aussi bien sur le temps de jeu. Alors, je ne parle pas pour tes joueurs, mais si je devais faire un estimatif, et je l'ai fait, du temps qui me serait nécessaire pour faire jouer cette campagne, pour infliger cette campagne à mes joueurs, je m'en tirerai pas en dessous de 3 ans. Juste comme ça, je laisse ça ouvert, hein, mais par exemple, rien que sur la traversée, les escales, rien que le passage de l'équateur, pour moi, c'est une séance de jeu, quasiment. Il y a plein d'autres moments où on peut passer des séances et des séances et des séances à tourner en rond. Donc pour moi, le temps est mal géré en termes de globalité, est mal géré par rapport à certaines scènes sur lesquelles visiblement on n'a pas du tout prévu combien de temps ça pourrait durer. Ensuite, sur la linéarité, alors c'est pas la linéarité que je reproche, dans le sens où on peut faire de bons scénars, de bonnes campagnes, en prévoyant, en anticipant un peu les grandes scènes clés qu'on va trouver. Moi, ce que je reproche plutôt à cette campagne, c'est, et je trouve, on peut en discuter, hein, mais qu'elle nie le libre arbitre des joueurs. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai lu sur certains forums français des groupes dans lesquels ça a complètement c'est complètement parti en latte parce qu'à un moment, les joueurs se sont dit, allez, vas-y, on prend nos affaires, on va établir un camp secondaire là-bas et on va faire un truc. Et c'est parti n'importe comment, la campagne était terminée. Elle a bugué, en fait, littéralement. Parce qu'on n'était plus dans les prévisions des auteurs et la campagne bug.
Tu veux dire qu'on peut pas retomber facilement sur ses pattes si on sort vraiment du dérail, quoi?
Il me semble qu'il y a des moments où c'est extrêmement compliqué. Par exemple, s'il y a un gros pépin à bord du bateau, s'il y a une voie d'eau, par exemple, s'il y a un naufrage, qu'est-ce qui se passe? Si les joueurs prennent la tangente, qu'est-ce qui se passe? Si tout le monde meurt d'un coup, les trois quarts du groupe est déquillé d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un fait un coup d'état sur Starkweather et se dit « ce mec est complètement fou, il ne faut pas le laisser parler, c'est moi maintenant qui vais prendre les rênes de l'expédition », qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas été anticipé, pas prévu, donc on laisse le MJ devant finalement un non-dit qui est « ramenez vos joueurs dans le droit chemin ». Remettez-les dans le quick time event, faites-leur sentir qu'ils sont au bord du monde et qu'il y a une barrière invisible qui les empêche d'aller par là. Alors ça sera le blizzard, je sais pas moi, les Esquimaux, la banquise, je ne sais pas, mais je trouve que, je parle pour mes joueurs, j'aurais du mal à assumer le fait de faire jouer mes joueurs à cette campagne. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de choix, de réel choix à faire. Même s'il y a des scènes qui sont magnifiques, et c'est vrai qu'il y a des montées, il y a des trucs crescendo, mais pour moi, on est dans l'intensité de montagne russe. C'est-à-dire qu'on est super content quand on est tout en haut, et la descente finale est merveilleuse, mais on entend tout le monde gueuler avant, on sait que ça va se passer comme ça. Ce que j'aime dans une campagne, c'est que les joueurs prennent les rênes, et qu'on se surprenne tous en même temps, par des trucs qu'on va construire ensemble, et j'ai pas envie d'être enfermé dans la psyché d'un auteur, même si elle est bonne. Sinon, je suis dans un livre, je suis pas dans un jeu.
Et pour terminer, vas-y.
Quand je fais jouer une campagne, j'ai plutôt l'optique de faire jouer mes joueurs à une campagne. Et j'ai pas envie de faire jouer une campagne à des gens. Pour moi, les joueurs doivent être au centre des choses.
Justement, je dirais que je suis d'accord avec toi sur ce point. Alors, pour savoir l'idée de, si je vais faire un camp de base, c'est la fin de la campagne, etc. Quelque part, c'est vrai dans n'importe quelle campagne. Si dans les masques de Nyarlathotep, oups, on avait dit qu'on n'en parlait pas, vous allez vous charger chez Omar Shakti, comme on peut avoir envie de le faire, parce qu'on se dit, c'est le vilain pas beau en Égypte, on y va, vous êtes tous morts. Le TPK est assuré. Donc, si vous voulez, je pense que dans n'importe quelle campagne, il y a des endroits où les joueurs peuvent aller et ça va tout foutre en l'air. Alors, c'est vrai qu'ici, elle est linéaire. Par contre, après, pour l'histoire de centrer sur les personnages, moi, c'est la campagne la plus centrée sur les personnages que j'ai fait jouer. Parce que vous jouez pas des instruments à tailler un scénario, vous jouez pas un outil profilé pour pouvoir être capable d'interagir sur 5 continents et tabasser du cultiste de toutes les couleurs. Vous jouez des hommes. C'est la campagne où vous jouez vraiment des hommes et qui va vous pousser à être dans votre personnage. Qu'est-ce que ça fait d'être au bout du monde quand vous savez que vous ne reverrez pas votre femme? Qu'est-ce que ça fait d'être là avec des types que vous supportez pas, mais au final, tout vous fait comprendre que vous êtes comme lui, ce mec que vous supportez pas parce que c'est peut-être un antisémite vaguement nazillon vu qu'on est dans l'époque, ou que lui c'est un noir américain et que moi je suis un violent raciste et vice-versa. Mais ces gens-là sont des hommes, et à la fin de la campagne, c'est ça, c'est qu'en fait vous êtes des hommes face à des trucs qui dépassent tellement tout le reste que finalement c'est plus tellement important. Donc moi je pense qu'elle est très très centrée sur les personnages et qu'elle ne peut exister que si les joueurs créent des vrais backgrounds en amont, des vrais personnages. Et mes joueurs avaient vraiment compris ça, quoi. Mais c'est un ovni.
D'accord, on va s'arrêter là. Ouais, vas-y, s'agissant.
Ce qui est intéressant, c'est que justement, on va avoir des personnages et on a le temps de les faire évoluer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réelle raison d'arriver dans la situation. J'ai eu une caisse qui est arrivée sur les pattes d'un joueur, un mec, désolé, il s'est retrouvé avec les deux jambes cassées, ok, il ne peut plus continuer. Mais par contre, c'est pas une campagne qui est mortelle en soi. Donc les joueurs, compte tenu surtout de la durée de la campagne, on l'a dit, quoi, c'est monstrueux, ils ont le temps de développer les persos, ils ont le temps de développer les psychologies des persos, de rentrer dans leur peau. Donc en fait, effectivement, c'est vraiment une campagne axée sur les joueurs.
On t'entend pas très bien s'agissant, mais d'accord, on a compris. Le truc, c'est que, ouais, d'accord. Donc, on va... Oui ?
Juste peut-être pour l'histoire de la durée, quand Desprite dit 3 ans, je pense pas, je pense que les escales, tout ça, moi, on peut si on a envie, mais en vérité, vous pouvez aussi traiter le voyage, je parle pas de l'histoire des traîtres, etc., mais les escales à Panama, les escales à Melbourne, faites vite. Je veux dire, c'est pas une obligation, c'est si vos joueurs ont envie. Sinon, vous pouvez très, très bien traiter ça comme la petite ligne en pointillé rouge qui se dessine sur la carte dans vos vieux films de Tarzan, de King Kong, de tout ce que vous voulez.
Bon, messieurs, je vais être obligé de clore le débat. Ça ne peut plus durer. Les notes des sprites. Tu lui mets combien, monsieur Dweller?
Un pour le piège à rat et je maintiens ce que j'ai dit.
il est comme ça, lui. Fox.
C'est des situations de psychologie. Moi, je demande à une campagne de pouvoir faire des choix qui influencent l'intrigue.
Dak, Fox, tu lui mets combien à Dweller?
Moi, je suis très très partagé. Je pense que c'est une campagne effectivement super bien construite, etc., qui mérite un 3. Mais moi, pareil, hein, j'avais estimé à plus de 3 ans de durée de jeu, hein, donc avec des parties régulières, je serais plutôt à 1,5-2 à cause de ça.
D'accord, Camisole ?
Je sais pas trop, hein, mais j'aurais tendance à penser comme Dweller au niveau des choses à jouer, à pas jouer. Enfin, il m'a quand même pas mal convaincu, je serais plutôt à 3 aussi. Quoi.
D'accord, Sergi Sang ?
Pour le coup, c'est très à 4. Parce que c'est un monstre à jouer. C'est... Et puis, effectivement, ouais, c'est une campagne sur laquelle on peut vraiment beaucoup se développer. Et malgré tout ce qu'on dit, elle n'est pas si linéaire que ça. La partie est très linéaire. Mais à rigueur, notre article, il y a tellement de moyens de faire des choses. Non, je trouve pas... au moins, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Donc 4.
D'accord, donc à moi, je dirais, avant de t'écouter, Dweller, je lui aurais mis 2. Après t'avoir écouté, je lui mettrais 3. Et je me dis que j'ai beaucoup aimé ta façon de dire, finalement, parce que moi, je suis pas un narrativiste, hein, comme Desparite. Moi, j'aime bien les montagnes russes. Et je dirais que je modulerais ma réponse à 4. Je pense, si je l'avais joué avec toi ou si on me l'avait fait jouer à la façon dont tu l'as décrite, très honnêtement, car dans ta façon de dire que finalement les questions que ça pose derrière et ce genre de choses, chose que j'avais pas forcément mis en exergue quand je l'avais lu et quand j'avais commencé à la faire jouer, parce qu'on n'était pas du tout allé jusqu'au bout, en l'orientant comme ça, c'est... Ouais, je lui mettrais 4.
Je pense à comme un compliment.
Ah, mais tout à fait. Et puis, j'en fais pas beaucoup, et puis, ils sont jamais, c'est pas non, de la flagornerie. Et par contre, le truc, c'est que voilà, c'est pour ça que j'ai dit 4 si on me l'a fait jouer. Parce que à préparer et à maîtriser, si t'as pas les bons joueurs, là c'est plutôt du 3, j'aurais tendance à dire.
C'est vrai, c'est un pacte. C'est un pacte à comprendre que vous allez vivre une belle histoire. Elle aura pas de suite, c'est ça aussi. C'est vous jouez pas une campagne avec des persos qui vont peut-être rejouer autre chose. C'est une belle histoire, et dans une belle histoire comme ça, il y aura des morts. Mais une mort qui peut être une partie de l'histoire.
Dak, messieurs.
Juste un truc, si je peux me permettre juste de rajouter. Ça reste une œuvre excellentissime à lire. Donc même si vous hésitez à la faire jouer, lisez-la.
Lisez-la, ouais.
C'est vraiment un truc énorme. Ça se lit avec le plaisir d'un roman. C'est comme si vous redécouvriez la nouvelle version 2. Enfin, c'est vraiment un grand panard à lire.
Je veux bien vous parler des oripeaux, si vous voulez.
Ah.
Et si jamais, moi, je parlerai à l'occasion de l'affaire Armitage. À vous.
Ah super, pour la semaine prochaine. Ça te va, Desparais?
Ah ouais, ça m'intéresse.
Impec.
Et moi, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui parle du royaume des ombres. Camisole. Donc, tu veux faire le mariole avec, tu nous as dit, les oripeaux. Les oripeaux du roi,
ça,
donc...
C'est un exercice. Moi, j'ai pas, comme je vous disais, j'ai pas autant d'expérience que vous. Les oripeaux, c'est la première campagne de Cthulhu que j'ai fait jouer. Donc forcément, elle a une petite saveur pour moi particulière. Quoi.
Alors, Camisole, surtout que l'expérience, on s'en bat les couilles. Non, mais parce que... Je dis ça en plaisantant, mais en étant sérieux. C'est-à-dire que... On peut très bien se faire rabattre le caquet par quelqu'un qui vient de jouer sa première aventure de l'Appel de Cthulhu et qui l'aura mieux joué que nous. Donc ça, faut vraiment être tranquille, il n'y a aucun souci. Et on va t'en écouter d'autant plus, donc petite pression.
Merci.
Donc, Camisole, tu as 10 minutes pour nous vendre les oripeaux du roi qui, je ne te cache pas, a quand même une certaine bonne note dans l'inconscient des gens pour le moment, donc t'as 10 minutes pour lui faire honneur et nous la faire acheter. C'est parti.
Eh ben, je vais essayer de faire au mieux. par contre, je peux spoiler un peu parce que je risque de
pouvoir
spoiler un petit peu, quoi.
De toute façon, t'inquiète pas, que ce soit nous tous autour de la table ou plein de gens, personne n'a le temps de faire jouer ces campagnes trop longues, donc vas-y.
Ah bah pour le coup, je pense que c'est pas une campagne qui est trop longue à faire jouer. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était une super campagne, donc qui va toucher un petit peu aux contrées du rêve, qui va nous faire voyager un petit peu. C'est pas mal du tout. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette campagne, c'est que ça démarre très très fort avec le prologue, qui est un petit scénar qu'on avait enquillé après un autre, parce que c'est très court. Et pour laisser les joueurs sur leur faim, j'ai trouvé que c'était pas mal de démarrer sur un truc comme ça. Comme c'est encore assez frais dans ma tête, je vais essayer de vous le résumer un petit peu tout ça. En fait, au démarrage, il y a tous les joueurs qui vont assister à une pièce de théâtre qui parle de Carcosa. Et là, il y a une espèce de chose qui se passe où on échange des sensations différentes avec les joueurs. Donc moi, je fais ça avec des petits bouts de papier. Hein. Après, chacun fait comme derrière, ça donne une ambiance. Il y a des joueurs qui commencent déjà à avoir une espèce d'influence. Le grand ancien, c'est Astur, une influence d'Astur dans leur inconscient qui commence déjà à s'insinuer dès le prologue, alors qu'il y a d'autres joueurs qui comprennent rien de ce qui se passe d'entrée, quoi. Donc c'est assez amusant. Donc derrière, bah, comme ils sont très, très curieux, ils vont commencer à les fouiller sur toute une intrigue avec un espèce de fou qui a assassiné toute sa famille. Alors là, j'avoue que je ne me rappelle plus trop le lien entre la pièce et le fou.
C'est pas grave.
Et derrière, ils vont enquêter sur ce gars-là qui est... Je bafouille un petit peu parce que je suis un peu intimidé. Hein.
Oh, relax. Relax, et puis si tu veux, moi je peux te poser des questions de temps en temps pour te guider. Hein.
Ouais, est-ce qu'il y a que chez moi qu'il est haché ?
Non, moi aussi.
Je pense qu'il est haché et puis il est un peu intimidé, donc c'est du H-timidé, quoi.
Je vais essayer de parler un tout petit peu plus fort. Donc du coup, avec chaque chapitre est assez bien délimité, donc ça va donner peut-être un côté linéaire. Certains n'aiment pas trop, mais c'est quand même intéressant parce que ça permet, pour le maître du jeu, entre chaque séance, de travailler pas mal les personnages.
Donc, la suite du scénario, c'est une enquête suite à ce qui s'est passé à la pièce de théâtre, c'est ça ?
Non, pas du tout. La pièce de théâtre, ça me revient. En fait, la pièce de théâtre, elle n'est pas liée. Ça donne juste des éléments de contexte. En fait, ça introduit le roi en jaune, Carcosa et tout ça, quoi. Et ça n'a pas vraiment de lien avec ce qui se passe. C'est qu'après qu'ils vont pouvoir raccrocher les wagons, quoi.
Et donc, le lancement de la campagne, ça tourne autour de quoi ?
Ça tourne autour d'un professeur, d'un psychiatre en fait, qui demande aux... Alors, il faut que dans le groupe il y a un psy, hein. Bon, ça se fait bien.
Ça arrive.
ça démarre avec un psychiatre qui demande à ce personnage-là de venir lui donner un avis sur un de ses patients qui est un peu taré, quoi. Et il se trouve que ce patient-là, qui a été complètement qui était au sein d'un culte, tout ça au niveau d'Astur, il a complètement pété les plombs, et puis il a été amené à aller à Carcosa, et il en est pas revenu dans sa tête, quoi. Et donc derrière ils vont avoir du mal à comprendre tout ça.
D'accord, donc en réalité, le principe c'est qu'ils enquêtent sur ce personnage fou qui finalement est un cultiste qu'on essaie de soigner, c'est ça ?
Non. Enfin, derrière, ça va emmener toute une intrigue sur ce culte, parce qu'en fait, il n'était pas tout seul. Hein. Ça va permettre de développer un peu d'autres PNJ qui font partie de ce groupe-là. Ils vont apprendre qu'il y a eu des rites, tout ça, qui ont eu lieu dans des causes, tout ça. L'objectif, ça va être de déjouer, en fait... La venue d'Astur, en fait. Simplement. D'accord. C'est assez léger. Hein. C'est pas apocalyptique du tout.
pour toi, c'est si t'avais à citer les points forts que t'as eu à la faire jouer, quels ont été les points forts de cette campagne pour toi, les grands moments, les trucs à donf quoi.
Enfin, pour moi déjà le petit prologue qui est assez court, j'ai trouvé ça excellent. Après il y a eu un moment où ils se retrouvaient à Carcosa, ils s'en rendent pas compte tout de suite. Ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment bien à jouer, à le faire jouer. Et au bout d'un moment, il se rend compte qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Et bon, après, forcément, hein, c'est pas très naturel, tout ça, donc ils s'en rendent compte. Ce moment-là est très intéressant. Après, le reproche que je fais par rapport à cette campagne, c'est qu'elle est en 3 livres. C'est que s'ils se démerdent mal à Carcosa, alors il y a des échappatoires pour le gardien, s'ils se démerdent mal à Carcosa, ça peut tuer la partie tout de suite.
Parce que ouais, juste parce que comme c'est une campagne pour ta première campagne, tu choisis du costaud parce que on a toujours tendance à dire que jouer dans les contrées du rêve c'est quelque chose de difficile. Ça t'a paru difficile à toi ou pas?
Pas du tout, parce que en fait, moi j'ai trouvé que c'était vachement bien décrit, qu'il y avait pas mal. Bon après je vais pas faire la pub pour Sans Détour quoi.
Moi si tu peux.
J'ai trouvé que c'était vachement bien décrit. Il donne de bons conseils. Alors, comme je vous ai dit, hein, mon expérience était limitée, donc ça m'a permis de vraiment faire jouer ça bien. Après la campagne, on en a parlé avec les joueurs. Ils ont vraiment aussi beaucoup aimé cette partie-là. Il y a eu un autre moment intéressant. C'était il y a tout un chapitre où c'est une rencontre dans un bar avec un PNJ. Bah, ça, j'avais vu sur le forum de Toc, là, un gars qui faisait un petit feedback, il avait fait venir un joueur pour faire le PNJ, ils avaient vraiment joué la scène un peu comme une murder quoi. Et moi je l'ai fait aussi, et ça a donné quelque chose de vachement intéressant aussi quoi.
D'accord.
Alors, après la partie de Carcosa, donc là il y a un long périple en Inde et tout ça, enfin une petite promenade, un petit passage en bateau, après on arrive en Inde, et puis il y a une expédition, tout ça, un peu de logistique. Donc là, c'est un peu chiant, mais il se passe pas énormément de choses. Après, c'est si les joueurs, chez moi, les joueurs développaient pas mal de choses, donc on a réussi à faire des choses intéressantes.
C'est pas Indiana Jones, c'est pas Pulp à ce moment-là.
Pas trop, parce que c'est vraiment. Moi, j'ai surtout joué sur le côté. C'est dur, quoi. Les gars, ils sont en train de monter l'Himalaya et tout. C'est pas neutre.
D'accord.
Je l'ai vraiment fait jouer comme c'était quelque chose de très éprouvant pour eux, quoi.
D'accord. Et sinon, point de vue, parce qu'on a toujours tendance à trier les campagnes en linéaire, pas linéaire, t'as paru linéaire ou pas trop?
Ah ouais, très, ouais. On est obligé de tirer des ficelles, hein, parce que s'ils sortent trop du cadre, après, c'est vachement compliqué de raccrocher les wagons, quoi.
D'accord.
Après, mais j'ai trouvé que le final, par contre, est magnifique, quoi. Enfin, il est très 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 difficile. Si vous n'avez pas des joueurs qui percutent bien et qui arrivent à remettre des choses du début vers la fin de la campagne, parce qu'il y a quand même des choses à retenir tout au long. J'ai des joueurs qui sont un peu dissipés parfois, donc ils ont du mal. Ils ont échoué d'ailleurs. Mais la fin est très très difficile.
D'accord. Très difficile, ça veut dire il faut vraiment réfléchir, ou est-ce que c'est très difficile?
Et si on n'arrive pas à remettre les certaines choses du début, on n'arrive pas à se les remettre en tête, je pense que on peut pas s'en sortir, quoi.
C'est pas comme les camps. Ça repose pas sur un sacrifice comme les montagnes.
Si. Il y a si je peux vous spoiler la fin, en fait, ça vous dérange pas?
Ah non. Les gens sont au courant.
Le truc, c'est qu'à la fin, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont se retrouver sur le plateau de Leng, et puis ils vont arriver dans le temple, là. Et il va falloir qu'il y en ait un qui sache guider Astur, mais pour le perdre. S'il a pas ça en tête, ça veut dire qu'il va se sacrifier, hein, forcément. Déjà, s'il pense même pas à faire ça, ben, ils y arriveront pas, quoi.
Dans ces cas, il faut te préparer à décrire l'apocalypse sur la Terre. Quoi.
Ouais, bah, ça c'est bien fait. Ils ont bien compris que c'était l'apocalypse après.
Et les retours de tes joueurs, ils l'ont trouvé comment la campagne?
Bah, ils ont trouvé ça bien, très très bien même. Mais là, ils ont vraiment. En fait, le problème, c'est que nous, on joue qu'une fois par mois. On fait des parties de 5-6 heures tous les mois. Et ça, elle a duré à peu près un an, cette campagne. Et sur le final, bah, comme il y avait quand même des éléments à retenir de ce que le fou le racontait au début, en fait, ça l'a pas fait, quoi.
D'accord. En plus, ces trucs-là, si c'est un mec qui les raconte, c'est pas transcrit dans une aide de jeu, si?
Pas forcément. Enfin, si, après, peut-être que je me rappelle plus, hein, au niveau des aides de jeu, si avec les documents, ils auraient pu avoir ce qu'il faut, mais... Enfin, moi, je les invite toujours à prendre des notes. Hein. Ils font pas toujours, mais.
Est-ce qu'il y a, parce que là, tu nous as décrit quand même une intrigue un peu principale. Est-ce qu'il y a des intrigues secondaires?
Pas tellement. Après, il y a beaucoup. Enfin, s'il y en a une toute petite qui est assez légère, avec où il faut passer un rituel avec Shub-Niggurath ou un truc comme ça.
D'accord.
Enfin, c'était amusant, mais c'est pas ça fait même bizarre, en fait. C'est parce que c'est un PNJ qu'on rencontre et puis il faut aller sauver sa femme, je sais pas quoi, enfin à peu près. Hein. Sa femme est à moitié volée par un petit culte de Shub-Niggurath. Il faut lui venir en aide. Donc ça c'est vraiment un mini chapitre, quoi.
Alors vu que tu nous as dit t'as pas beaucoup joué, c'est ça? Avant de faire cette campagne.
J'ai beaucoup joué, mais pas maîtrisé, en fait.
Alors,
la première fois que je maîtrisais une campagne.
Une question subsidiaire, pourquoi t'as choisi celle-là?
Bon, je sais pas. Pourquoi pas?
D'accord, ouais, c'est...
Non, mais je parce que déjà, je voulais pas m'attaquer au masque, parce que ça me paraissait insurmontable pour démarrer. J'avais fait quelques petits scénars avant pour m'ajuster au niveau de la mortalité, parce que c'est toujours un problème. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'avais vu beaucoup de choses sur le fait que cette campagne était assez linéaire, ce que je vous confirme, elle est assez linéaire. Donc je me suis dit que ça serait moins compliqué.
D'accord. Bon bah écoute, t'as d'autres trucs à rajouter ou pas?
Non, vous pouvez y aller.
Alors messieurs... Vas-y.
Ok, donc moi je sors de True Detective, donc forcément le roi en jeûne et Carcosa, ça démange gravement. Par contre, je me suis posé une question, cette campagne commence en Angleterre, et je me suis dit, tiens, moi, si je l'avais joué, est-ce que ça serait pas sympa de la mettre en Gaslight? On a une belle boîte de 1890, et je me dis, est-ce qu'elle est vraiment typée pour être dans les années fin des années 20, ou est-ce qu'elle pourrait aisément se transposer au 19e siècle?
Bon, je pense qu'elle est transposable assez facilement.
Il n'y a pas d'éléments vraiment liés à l'époque 1920.
Bah, y a toujours beaucoup de descriptifs. Voilà, ils donnent des dates et tout, donc il y a des choses qui sont datées. Après, je pense que au niveau non, il faudra juste changer les dates des documents. Après, moi, je pense pas que ça pose trop de soucis, quoi.
D'accord, c'est un peu atemporel, quoi.
Voilà. Par contre, il y a vraiment une notion de temps qui est très importante aussi dans cette campagne.
Pardon.
Vas-y, Dola.
Est-ce que t'as intégré Chambers dans la campagne? L'auteur même du roi en jaune, le vrai, j'entends, parce que je crois qu'il, dans la campagne, ils disent que pourquoi pas, on pourrait même intégrer l'idée qu'il existe dans le monde du jeu, en vérité, l'homme qui a écrit le roi en jaune.
Non, pas du tout, non.
D'accord.
Moi, j'ai une question. Est-ce que t'as pas eu de problème à intégrer d'autres joueurs que ton psy?
Non, parce que moi c'est pour ça que j'aime pas trop la haute mortalité, donc j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de mortalité dans l'appel de tout. Après, s'ils font vraiment des conneries, bah s'ils assument, mais du coup, moi comme j'avais fait quelques scénarios avant, j'ai fait en sorte que le groupe existe déjà, quoi.
Ah après, d'accord.
Après, okay. le truc c'est que bah pourquoi ils partent toujours à 6, bah ça c'est une autre histoire, hein, mais... Et c'est pour le confort de tout le monde.
Par contre, dans ton souvenir, est-ce que dans le scénar, il t'aide à monter le groupe ou pas?
Pas tellement, non.
Non, d'accord.
Pas du tout, même.
Pas du tout, non.
C'est justement une des grosses questions que j'ai.
D'accord.
Par des artistes qui peuvent être inspirés par Astur. Et est-ce qu'on peut comment intégrer facilement?
J'ai pas du tout compris, c'est complètement...
Ce que tu dis, c'est... Je vais essayer de récapituler, c'est... Est-ce qu'on peut intégrer des artistes, c'est ça, dans l'équipe?
Ah ouais, c'est même conseillé, en fait, parce que l'objectif, bah, si vous connaissez un peu Astur, hein, c'est quand même l'ancien qui influence beaucoup les créateurs, Et du coup, ça permet d'ouvrir pas mal de choses avec ces personnages-là, en fait.
Moi, j'ai une question. Est-ce que, comme c'est ton premier... comme c'était ta première grosse masterisation, est-ce que cette linéarité qui a peut-être pu te rassurer au début, est-ce qu'elle a été un poids par moment dans le scénario? Tu l'as senti, genre... bah, ils seront obligés de passer par là, c'est dommage, j'aurais aimé qu'ils puissent aller autre part.
Hein, je me suis pas dit ça, parce qu'au final, c'était quand même assez plaisant, et puis c'est assez naturel, au final, quoi. Après, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que, alors, comme c'était ma première partie, hein, c'est le syndrome des murs invisibles, c'est-à-dire qu'il y a des personnages, et on leur parle pas au bon moment, ils diront rien, quoi, et parfois, c'est un peu chiant, quoi.
Parce que je dirais que là, le retour finalement que tu nous fais, comme c'était, je me souviens des premières campagnes, t'as appliqué quasiment texto le scénario.
Oui, oui, j'ai pas pris trop de risques, hein, je vous avoue. j'avais peur de me perdre, en fait.
Et tes joueurs, c'était des débutants?
Alors, pas de jeu de rôle. J'en ai un qui connaît très très bien l'appel de Cthulhu, donc c'est pas mal, ça aide, ça tire un peu le groupe. Par contre, la plupart sont des joueurs d'autres choses, quoi. Donc,
d'accord.
Des joueurs, quoi.
D'autres questions, messieurs ?
Oui. Moi, j'ai très très vite survolé. Donc, quel est le point de vue sur Ashtur dans la campagne ? Parce qu'il y a deux écoles, on va dire. Il y a Derleth qui nous fait un gros pouf dégueulasse dans le lac de Hali. Et puis, il y a un peu ce qui a été fait par les auteurs de Delta Green qui vous font d'Ashtur une espèce de virus psychologique plus qu'une entité au sens propre, quoi.
Ben, en fait, alors moi tel qu'il est décrit dans le bouquin, et puis c'est aussi comme ça que je l'ai montré à mes joueurs, c'est plutôt quelque chose d'indicible, quoi, vraiment. On n'a pas une notion de présence physique, mais plus de présence, chose d'insondable qui nous aspire, quoi. Enfin, je sais pas comment trop le décrire, justement, c'est le principe. Hein.
Si, t'as bien transmis le truc, d'accord.
Parce que je sais pas si tu l'avais lu dans Countdown, où il y a un excellent article sur là-dessus, et je me demandais si c'était s'ils étaient un peu inspirés par ça ou pas.
Non, là, il y a juste une scène tout à la fin où, bah, il est matérialisé, mais il est matérialisé comme un espèce de personnage très grand, mais dont on voit pas le visage. Avec des espèces de lambeaux, quoi. Enfin des oripeaux d'ailleurs.
Et une question. Vas-y,
ouais, les sprites. Demander, en fait, c'est une campagne qui t'a pris combien de temps?
Un an, à peu près. Hein.
Bon, mais une fois par mois.
Ouais.
Et moi qui aime bien les sbires un peu à la con, genre profond, dol, tout ça, est-ce qu'il y a du mignon à côté de Ashtur ou est-ce qu'il reste la seule entité poulpique?
À part le petit chapitre avec Shub-Niggurath là, et puis il y a un rejeton qui traîne. Non, il n'y a pas grand chose.
D'accord.
Les biakis.
Oui, voilà. Ah oui, si. Effectivement, les biakis sont très très présents.
Autant son rejeton, sinon.
Moi, j'aime bien les biakis.
Ouais, moi aussi, ils ont moins aimé, hein, les biakis.
Quand je bouquinais la campagne, j'avais l'impression que c'était une campagne qui avait une dimension quand même qui restait très humaine et psychologique. Tu confirmes ?
Ouais, carrément. Ouais. À part les petites scènes, deux trois petites scènes pulp, mais notamment avec les biakis, mais en général, ça met pas vraiment vraiment en danger les personnages. Ça les confronte juste à quelque chose de supérieur et ça va pas être facile pour eux, quoi.
Okay. Et donc, tu, d'un point de vue humain, est-ce que tu as exploré et exploité l'historique de tes personnages, de tes joueurs, pour un peu taper sur le côté humain ou pas ?
Ah, pas trop, non. Mais après, enfin, moi, je pars du principe que ce genre de développement, ça doit venir d'eux aussi, quoi.
D'accord.
J'ai deux joueurs qui essayent de vraiment jouer un rôle, et puis les autres un peu moins. Donc, ouais, c'est un peu...
T'as combien de joueurs au total ?
J'en ai 6, moi.
Oh, punaise, la vache. D'accord. D'autres questions, messieurs ?
Et ça passe à 6.
Ça passe, tranquille.
Fox, question ou pas ?
Alors, j'en ai 6 parce que moi, j'aime bien jouer tous les mois et ça arrive que j'en ai un qui soit pas là. Donc, en général, on tourne à 5, quoi.
D'accord.
Fox ? Non ?
Non, aucune pour moi.
D'accord. Bon, attends, je réfléchis. Parce que j'en avais certaine. Ouais, donc t'as réussi à te sortir du côté onirique et tout. Il n'y a pas eu, avec le joueur qui connaissait l'appel, parce que c'est souvent le problème pour certaines campagnes, dès qu'il sait à quoi il est confronté, parce que tu dis c'est un roi, il est plutôt jaunâtre, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'effet ah oui, je vois de qui il s'agit, mais je vais pas le dire, et ce genre de choses, non? Ça n'a pas frustré ton joueur qui connaissait l'appel au Cthulhu?
La toute première partie qu'on a fait, c'était un scénar dans je sais plus quel bouquin, c'était la nouvelle avec le réanimateur, là. Vous connaissez sans doute ce scénar. Et il me l'a cramé d'entrée, et je lui ai dit, tu me refais ça une fois et tu viens pas, quoi. Tu viens plus. Je pense qu'il a bien compris le message, et maintenant il joue le jeu, quoi.
D'accord, ouais, t'avais bien calibré les choses. Ouais. Bon, bah c'est cool. Bah, s'il y a plus de questions, messieurs.
Sans doute pas très bien vendu, mais si.
Enfin, ouais, je pense que c'est pas mal. Problème,
au moins à la regarder, et puis voir à l'essayer si elle est vraiment intéressante, quoi.
Je sais pas de quand elle date, parce que dans l'idée que je m'en fais, et à ta décharge, ça te confirme un peu. Ah, j'avais l'impression qu'elle était plus ancienne que ça.
Non, je crois pas.
Elle fait assez classique,
89,
quoi.
89, non, c'est pas ça?
Non.
Un truc Chaosium à la base.
2006.
Ouais, mais...
2006.
Ah oui, 2006, ouais, effectivement.
D'accord. Bon, on va passer aux notes. Donc je vais commencer. Tiens, je suis mitigé parce que, je dirais que assez bêtement, tu m'as fait l'effet inverse. C'est-à-dire que je m'étais dit pourquoi pas, et ta description étant assez honnête, vu que c'est ta première campagne et que on sent l'honnêteté, je l'aurais mis 3,5 pour lui donner sa chance au produit, et là vu ce que tu me dis, j'ai l'impression que ça va être un peu un classique et j'ai un peu peur que ça passe pas trop, donc je serais plutôt vers le 2,5-3 moi. Des sprites
3 en tant qu'MJ à cause de la linéarité, mais 4 en tant que joueur parce que c'est une campagne qui est vachement sobre avec des thèmes Lovecraftiens qui sont énormes et des scènes qui sont vraiment super, je pense notamment à l'asile.
Ouais, je suis d'accord.
D'accord. Dweller.
Moi je pense que si un joueur, enfin, ou plutôt un maître de jeu qui a pas beaucoup de bouteilles dit qu'il a pu la mener, c'est qu'elle est quand même plutôt pas trop mal foutue. La thématique m'intéresse, comme vient de dire Desprite, le côté Lovecraftien, enfin Ashtur, je pense que c'est une des entités les plus intéressantes, surtout à la lumière de ce qui a été écrit récemment. Je vous dis, on revoit True Detective et ça donne envie. Et je pense que moi j'ai envie de la faire jouer, la mettre au 19e siècle. Tu me dis qu'il y a une scène d'asile, un asile au 19e c'est encore pire qu'un asile au 20e siècle. Donc si, moi je pense qu'il y a du gros potentiel et au côté victorien, quoi. Donc moi je vais lui mettre 4 en envie de jouer, quoi.
D'accord, bien joué Camisole Fox.
Moi ça sera 3.
Voilà, ça c'est Fox, sobriété. S'agissant de ton côté, tu mettrais combien?
Moi je mettrais que 2 parce que...
Que 2 t'as dit?
Ouais, que 2. En fait pour le coup, non, c'est pas ça qui m'a donné envie de la lire. Et en fait, pour le coup, je trouve que c'est une campagne sur laquelle il y a quand même énormément de boulot. Et je vois mal les articulations entre les différentes parties. Donc je pense que pour la quantité de boulot qu'il va y avoir à faire comme gardien, ouais, peut-être que 2.
Ah, mais tu parles des ombres de Oxodot, là? Non, je déconne. Bah écoute Camisole, merci, parce que t'as bien quand même défendu ton morceau et t'as réussi en plus à moitié convaincre un narrativiste et un Lovecraftiste. Bien joué. Donc messieurs, il est l'heure, hein, comme on l'avait dit. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que ce genre de petite séance, c'est pas mal du tout.
En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'aller dans le Grand Nord, que ce soit le Frontier in the Waste ou les montagnes hallucinées.
Bon, bah, on n'a pas perdu notre temps.
Je pense que... Je pense que... Alors, je sais pas si vous pourrez être là la semaine prochaine à la même heure, mercredi.
possible.
Mais sachant que donc on s'est fait Walker, pour moi celle qui reste qui pourrait être intéressante à défendre, il y a les Fungi, qui est assez peu connu et on m'en a toujours fait l'éloge. Il y a il y a le Royaume des Ombres, ça c'est important. L'affaire Armitage par Death Fright, ça c'est clair aussi. Et si quelqu'un prend le Royaume des Ombres, moi je vous ferai l'article sur une des campagnes long métrage de Cassius. Parce que... Oui ?
J'avoue que le Royaume des Ombres, c'est la seule et c'est la première.
Bon, franchement, celle-là en plus, elle est énorme. Puis elle est très très intelligente et subtile. Et moi je vous parlerai peut-être soit du livre des révélations. Ah putain, il y a la maison reste ouverte pendant les travaux qui est absolument titanesque. Bon, moi je taperai dans une des Cassius Belli, je pense. Ben messieurs, je vous remercie beaucoup. J'espère que oui, douleur.
La maison reste ouverte, c'est pas du Tristan, c'est pas, ça sera pas dans le
rôle. Si. Ah, cool. Et d'un point de vue ambiance, j'en ai encore des frissons quoi. Surtout à cette époque où on célèbre les 70 ans de la fin de la guerre, c'est pile poil. Très honnêtement, si vous voulez prendre votre pied avec des tickets de rationnement, des nazis et du poulpe derrière absolument titanesque, c'est énorme.
Donc, les chapitres sont extraordinaires.
Et puis la montée en puissance, enfin c'est un peu comme Terreur sur Ant Express quoi. Parce que Terreur, le problème c'est que beaucoup de gens voient ça comme un train, comme dirait des sprites. Mais maîtrisé par un maître qui va te faire monter la sauce, comme dirait Dweller, moi j'en ai un souvenir qui me reste encore des frissons dans le dos. Putain de sa race, que c'était énorme. Bon, sur ces bonnes paroles, on va aller se coucher.
Noté. En tout cas, merci pour une première, c'était très agréable.
Ah bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé, oui, parce que là on a eu plein d'avis vachement intéressants, oui. Et puis je pense qu'on va avoir des super retours dans les forums, parce que il va y avoir certaines personnes qui vont avoir découvert les campagnes, ou même redécouvert les campagnes. Donc de toute façon, ce que je ferai, c'est que je vais le mettre en ligne, comme ça vous verrez la qualité de vos micros. parce que Fox sur la fin, ça a été, c'est énorme, mais c'est pas grave. Mais si tu peux avoir un truc un peu plus... Tu verras, tu verras. Mais il n'y a pas de souci, parce que c'était très intéressant d'avoir ta participation. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis de toute façon, je rebalancerai un mail d'ici la fin de semaine pour savoir qui pourra être là mercredi prochain, comme ça on se refera 4-5 campagnes, et je pense qu'on aura bien rempli notre office. Messieurs, je vous remercie beaucoup, et je vous dis bonne soirée, et puis à bientôt sur Toc, alors. Hein.
Bonne soirée à tous.
Bye.
Merci à tous.
Bye.
Merci.